Chapitre 18. La nuit précédant la réception du Dalai Lama, je suis fatigué mais je n'arrive pas à dormir. Abetik est à Jokung avec Georges, Jigme et 30 chargements de matériaux de construction qui auraient dû arriver hier, mais ils ont été retenus dans la ville de la fissure par une grève des porteurs. Abetik en embauchera d'autres demain matin et sera à la tête du cortège pour les derniers kilomètres à parcourir jusqu'au temple. Agité, je roule hors de mon fouton et enfile un pantalon en whipcord, une chemise décolorée, mes bottes et une légère veste thermique. Quand je sors de ma pagode, je remarque que la lumière d'une lanterne réchauffe les fenêtres opaques et la porte shoji du pavillon d'aînés. Elle travaille tard une fois de plus. Marchant doucement afin de ne pas la déranger en faisant vibrer la plateforme, je gravis l'échelle jusqu'au niveau principal du temple suspendu dans les airs. Cela m'étonne toujours de voir cet endroit aussi vide la nuit. Les premières fois, j'ai pensé que c'était parce que les ouvriers, dont la plupart vivent dans les constructions branlantes de l'escarpement aux environs de Jokung, étaient partis. Mais je m'aperçus plus tard que très peu de personnes passaient la nuit dans les bâtiments du temple. Georges et Jigme dorment généralement dans la cabane de leur contremaître, mais ce soir, ils sont avec Abetik à Jokung. Kempo Nga Wang Tashi, le père supérieur, reste ici certaines nuits, mais ce soir, il est retourné dans sa résidence officielle. Quelques moines préfèrent l'austérité de notre temple au monastère de Jokung, dont Chimdin, l'Absang Samten et la moniale Dongkan Yapso. Parfois, l'homo couche chez les moines ou dans l'un des lieux saints, mais pas ce soir. Il est parti tôt pour le palais d'hiver car il a l'intention de gravir le Nanda Devi au sud de Potala. Donc, si je peux voir la douce lueur d'une lanterne dans la résidence des moines, à des centaines de mètres de notre plateforme, sur le niveau le plus bas du bord oriental du complexe, lueur qui vient d'ailleurs de s'éteindre, le reste du temple est sombre et silencieux à la lumière des étoiles. Ni l'oracle, ni aucune des autres radieuses lunes ne s'est encore levée, bien que l'horizon commence à s'éclairer de leur venue. Les étoiles sont incroyablement brillantes, presque aussi éclatantes que vues de l'espace, et elle ne scintille pas non plus. Il y en a des milliers de visibles cette nuit, plus que dans le ciel nocturne d'Hyperion ou de l'ancienne Terre, me semble-t-il, et je tends le cou jusqu'à ce que je puisse voir celle qui se déplace lentement, la lune minuscule où le vaisseau est probablement caché. J'ai emporté le journal disque, et il me suffirait de murmurer pour le questionner, mais Aîné et moi avons décidé qu'étant donné la proximité de la Pax, il ne fallait lui envoyer de transmission, même par faisceau étroit, qu'en cas d'urgence. J'espère sincèrement que cette éventualité ne se présentera pas de sitôt. Je redescends par les échelles, les escaliers et les petits ponts du côté ouest du temple, et me retrouve sur la corniche en briques et en pierre qui court sous les structures inférieures. Le vent nocturne s'est levé et j'entends craquer et gémir le bois d'œuvre tandis que tous les niveaux de la plateforme s'adaptent au vent et au froid. Les banderoles de prière claquent au-dessus de ma tête, et je vois la lumière des étoiles éclairer le sommet des nuages qui déferlent contre la roche, tellement loin en dessous. Le vent n'est pas tout à fait assez fort pour produire ce hurlement de loup qui m'a réveillé durant mes premières nuits ici, mais son passage dans les crevasses, les membrures et les fentes fait murmurer et chuchoter le monde autour de moi. J'arrive à l'escalier de la sagesse et traverse le pavillon de méditation de la compréhension juste, restant un moment sur le balcon pour regarder la résidence sombre et silencieuse des moines, perchée toute seule sur un gros rocher, à l'est. Je reconnais le savoir-faire et le soin infini de la sculpture sur bois des sœurs Kuku et Kaese dans les motifs complexes que je sens sous mes doigts. M'enveloppant plus étroitement dans ma veste pour me protéger du vent qui devient plus fort, je gravis l'escalier en spirale jusqu'à la pagode de la pensée juste. Sur le mur est de ce bâtiment restauré, Aîné a dessiné une grande fenêtre parfaitement ronde qui donne à l'est, sur la pente douce de la ligne de crête, là où l'oracle fait sa première apparition. Justement, la lune se lève maintenant, ses rayons brillants illuminent d'abord le plafond de la pagode, puis le mur du fond, où ces mots de la Sutta Nipata sont gravés dans le plâtre. Comme une flamme éteinte par le vent va se reposer et ne peut être définie, ainsi le sage libéré de lui-même va se reposer et ne peut être défini. Va au-delà de toutes les images. Va au-delà du pouvoir des mots. Je sais que ce passage évoque la mort énigmatique du Bouddha, mais je le lis au clair de lune en me disant qu'il peut s'appliquer à Aîné ou à moi, ou à nous deux. Contrairement aux moines qui peinent ici pour atteindre l'éveil, je n'ai aucun désir ardent de dépasser mon individualité. Le monde, tous les mondes que j'ai eu le privilège de voir et de traverser, voilà ce qui me fascine et me ravit. Je n'ai aucune envie de me dépouiller du monde et de mes images sensorielles. Et je sais qu'Aîné pense la même chose de la vie. Y participer ressemble à la communion catholique, seulement le monde est l'hostie et il doit être mâché. Pourtant, l'idée que l'essence des choses, des gens, de la vie, va au-delà de toutes les images et du pouvoir des mots, trouve un écho en moi. J'ai tenté, et ce fut un échec, de mettre l'essence de ce lieu, de ces jours, en mots, et j'en ai découvert la futilité. Laissant l'axe de la sagesse, je traverse la longue plateforme où l'on prépare et prend les repas en commun, et je commence à gravir les escaliers, les ponts et les passerelles de l'axe de la moralité. L'oracle s'est maintenant libéré de la ligne de crête. Sa lumière et celle de ses deux compagnes teintent la roche et le bois rouge d'une épaisse couche lunaire. Je traverse les pavillons de la parole juste et de l'action juste, m'arrêtant pour reprendre mon souffle dans la pagode circulaire des moyens d'existence juste. Il y a un tonneau de bambou plein d'eau potable à la porte de la pagode de l'effort juste et j'y bois à longs traits. Des banderoles de prières voltigent et claquent le long des terrasses et des avancées du toit, tandis que je parcours doucement les longues plateformes qui relient ce bâtiment aux structures plus élevées. Aîné vient de travailler au pavillon consacré à l'attention juste, et il sent encore le cèdre bonsaï frais. Après avoir gravi une échelle à pic de 10 mètres, j'atteins le pavillon de la méditation perché en haut du temple, dont les fenêtres donnent sur la paroi de la crête. Je reste là pendant plusieurs minutes, et m'aperçois pour la première fois que l'ombre de la pagode tombe sur la dalle rocheuse lorsque la lune se lève, comme elle le fait maintenant, qu'Aîné a dessiné le toit du pavillon pour que cette ombre, mêlée aux fissures et aux décolorations naturelles de la roche, crée un caractère, celui qui désigne le Bouddha en chinois. À ce moment, un frisson me parcourt, bien que le vent ne souffle pas aussi fort que tout à l'heure. J'ai la chair de poule et ma nuque semble glacée. Je prends conscience, non. Je vois à cet instant que la mission d'Aîné, quelle qu'elle soit, est condamnée à l'échec. Elle et moi, nous allons être capturés, interrogés, probablement torturés et exécutés. Les promesses que j'ai faites au vieux poète sur Hyperion n'étaient que du vent. Abattre la Pax, ai-je dit. La Pax avec ses milliards de fidèles, ses millions d'hommes et de femmes en armes, ses milliers de vaisseaux de guerre. Rapporter l'ancienne terre, j'avais accepté de le faire. Au moins, j'y suis allé. Je regarde par la fenêtre pour voir le ciel, mais il n'y a que la paroi rocheuse au clair de lune et l'ombre qui dessine lentement le nom du Bouddha. 3 coups de pinceau verticaux, comme de l'encre sur un vélin couleur ardoise, et 3 coups horizontaux qui coulent autour et se rejoignent, formant avec les espaces vides 3 visages blancs, 3 visages qui me regardent dans l'obscurité. J'ai promis de protéger Aîné. Je jure que je mourrai en le faisant. Secoué de frissons et de prémonitions, je sors sur la plateforme de la méditation, m'accroche à un câble et traverse en bourdonnant 30 mètres de vide jusqu'à celle qui se trouve sous la terrasse la plus haute, où Aîné et moi dormons. Tandis que je grimpe la dernière échelle pour atteindre le niveau le plus élevé, je pense que je vais peut-être dormir maintenant. Je n'ai rien noté de ce qui suit sur le journal disque. Je m'en souviens maintenant en l'écrivant. La lumière d'Aîné était éteinte. J'en fus ravi. Elle restait debout trop tard, peinait trop dur. Les échafaudages du travail en haute altitude et les câbles d'escarpement, ce n'était pas un endroit pour un architecte épuisé. J'entrais dans ma cabane, fermai la porte shoji et ôtai mes bottes à coups de pied. Tout était comme je l'avais laissé, les cloisons extérieures étant restées entr'ouvertes, le brillant clair de lune éclairait ma couche, le vent agitait les murs dans sa douce conversation avec les montagnes. Aucune de mes lanternes n'était allumée, mais dans l'obscurité, j'avais la clarté de la lune et mon souvenir de la petite pièce. Sur le sol recouvert d'un tatami, il n'y avait que mon futon et un seul coffre près de la porte qui contenait mon sac à dos, un peu de nourriture, un pot à bière, les respirateurs à portée du vaisseau et mon matériel d'escalade. Rien d'autre sur quoi trébucher. Je suspendis ma veste à la patère près de la porte, m'éclaboussai d'eau le visage au-dessus de la cuvette posée sur le coffre, ôtai ma chemise, mes chaussettes, mon pantalon et mes sous-vêtements, puis les fourrai dans le sac à linge sale rangé dans le coffre. Demain, c'était jour de lessive. Soupirant, sentant la prémonition de mon échec, éprouvé dans le pavillon de méditation, se transformait en simple fatigue, je me dirigeais vers mon futon. J'avais toujours dormi nu, sauf quand j'étais dans la garde nationale et pendant mon voyage à bord du vaisseau du consul avec mes deux amis. Il y eut un léger mouvement dans l'obscurité, hors de la brillante rayure du clair de lune, et surpris, je m'accroupis dans une posture de combat. La nudité donne l'impression d'être plus vulnérable. Puis je me dis, Abétique a dû revenir tôt. Je desserrai mon poing droit.
« Roll ?»
dit Aînée. Elle se pencha dans la lumière de la lune. La partie inférieure de son corps était enveloppée dans ma couverture, mais ses épaules, ses seins et son ventre étaient nus. L'oracle caressait ses cheveux et ses pommettes d'une douce lumière. J'ouvris la bouche pour parler, commençai à courir vers mes vêtements ou ma veste, décidé de ne pas marcher jusque-là et, tombant à genoux près du futon, tirai le drap pour me couvrir. Je n'étais pas prude, mais c'était Aîné.
« Pourquoi diantre, Roll ?»
répéta-t-elle, et cette fois, il y avait une question dans sa voix. Elle s'avança vers moi sur ses genoux. La couverture tomba.
« Aîné, » dis-je stupidement, « Aîné, tu ne vas pas... »
Elle mit le doigt sur ma bouche et l'enleva une seconde plus tard. Mais avant que j'aie pu parler, elle se pencha et appuya ses lèvres là où son doigt s'était posé. Chaque fois que j'avais touché ma jeune amie, le contact avait été électrique. J'ai déjà décrit cela et en parler m'a toujours gêné, mais j'attribuais ce phénomène à une aura, à une forte personnalité. C'était une chose réelle et pas une métaphore. Mais je n'avais jamais senti une telle décharge d'électricité entre nous. Pendant une seconde, je restais passif, recevant son baiser plus que je ne le partageais. Mais alors, sa chaleur et son insistance triomphèrent de la pensée, triomphèrent du doute, triomphèrent de tous mes autres sens dans toutes les nuances de ce verbe, et je lui rendis son baiser, mettant mes bras autour d'elle pour l'attirer plus près. Alors, elle glissa ses bras sous les miens et fit courir ses doigts vigoureux le long de mon dos. Cela faisait 5 ans, pour elle, qu'Aînée m'avait donné ce baiser d'adieu au bord du fleuve de l'ancienne terre. Il avait été pressant, électrique, plein de questions et de messages, mais c'était tout de même le baiser d'une fille de 16 ans. Celui-là, c'était le baiser chaud, mouillé, bouche ouverte d'une femme. Et je réagis aussitôt. Nous nous sommes embrassés pendant une éternité. J'étais vaguement conscient de ma nudité et de mon excitation comme d'une chose qui aurait dû m'embarrasser, mais c'était secondaire par rapport à ce baiser brûlant, insistant, qui ne voulait pas cesser. Quand finalement nos lèvres se séparèrent, presque enflées, presque endolories, pleines du désir d'être encore embrassées, nous couvrîmes de baisers nos joues, nos paupières, nos fronts, nos oreilles. Je baissai la tête et embrassai le creux de sa gorge, son pouls contre ma bouche, et je humais l'odeur parfumée de sa peau. Toujours à genoux, elle se cambra un peu afin que ses seins frôlent ma joue. Je refermai ma main sur l'un d'eux et baisai le mamelon presque avec respect. Aînée prit ma nuque dans la paume de sa main. Je sentais son souffle sur moi s'accélérer, tandis qu'elle se penchait vers moi.
« Attends, attends, » dis-je, en me dégageant et en me redressant. « Non, Aînée, es-tu... Je veux dire... Je ne crois pas...
Chut !» dit-elle en s'inclinant de nouveau sur moi, m'embrassant encore sur la bouche, puis elle me regarda, et ses yeux bruns parurent remplir le monde.
« Chut, Roll. Si. »
Elle m'embrassa encore, en m'attirant vers sa droite, si bien que nous nous retrouvâmes tous deux couchés sur le futon, sans cesser de nous embrasser tandis que la brise secouait bruyamment les cloisons en papier de riz, et que toute la plateforme se balançait de la violence de notre baiser et du mouvement de nos corps.
ce n'est pas facile de raconter de telles choses, de partager les moments les plus intimes, les plus sacrés. Mettre cela en mots ressemble à une espèce de viol. Ne pas le faire, c'est un mensonge. Voir et sentir sa bien-aimée nue pour la première fois, c'est l'une des épiphanies pures et irréductibles de la vie. S'il existe une véritable religion dans l'univers, elle doit englober ce contact vrai ou rester vaine à jamais. Faire l'amour avec l'être qui mérite cet amour est une des rares récompenses absolues de la condition humaine qui compense la douleur, les pertes, la balourdise, la solitude, la bêtise, les compromis, la lourdeur qui accompagne cette condition. Faire l'amour avec la bonne personne supplée à pas mal d'erreurs. Cela ne m'était jamais arrivé. Je le sus dès qu'Aîné et moi échangeâmes notre premier baiser, tandis que nous étions couchés l'un contre l'autre, avant même que nous commencions à bouger lentement, puis rapidement, puis lentement de nouveau. Je me rendis compte que je n'avais jamais vraiment fait l'amour avant, que les rapports sexuels du jeune soldat en permission avec des femmes amicales, ou celui du marinier et de la marinière nous en avons l'opportunité alors pourquoi pas, par lesquels j'avais cru explorer et découvrir tout ce qui concernait ce sujet, n'en était pas même le début. Ça, c'était le début. Je me souviens qu'Aîné se souleva au-dessus de moi, à un moment, la main durement appuyée sur ma poitrine, les seins luisants de sueur, mais qu'elle me regardait toujours. Me regardait avec une telle intensité, une telle chaleur, que c'était comme si nous étions liés intimement par notre regard, tout aussi sûrement que par nos ventres et nos organes génitaux. Et j'allais me rappeler cet instant chaque fois que nous ferions l'amour dans le futur, comme j'eus l'impression de me souvenir de toutes ces futures étreintes durant les tout premiers instants de notre intimité. Nous restâmes tous deux couchés dans la clarté de la lune, les draps, les couvertures et le futon en désordre autour de nous, le vent froid du nord séchant la sueur de nos corps, sa joue sur ma poitrine et ma cuisse sur sa hanche, mes doigts dessinant la ligne de sa joue, la plante de mon pied glissant du haut en bas de sa jambe, encerclant les vigoureux muscles de son mollet. « Était-ce une erreur ? » chuchotai-je. « Non, » répondit-elle sur le même ton. « À moins que... » Mon cœur se mit à taper. « À moins que quoi ? » ?»« À moins que, pendant que tu étais dans la garde nationale, tu n'aies pas reçu ces piqûres que je suis certaine que tu as eues ?» murmura-t-elle. J'étais si inquiet que je n'entendis pas l'accent taquin de sa voix. « Quoi, des piqûres ?» « Quelle piqûre ? » dis-je en me redressant sur un coude. « Oh, les piqûres, merde ! Tu sais bien que je les ai eues, bon Dieu !»« Je le sais, » chuchota Aîné. Et cette fois, je la sentis sourire. Quand nous, les jeunes gens d'Hyperion, entrions dans la garde nationale, les officiers nous faisaient faire l'habituelle série de vaccins approuvés par la Pax, anti-malaria, anti-cancer, antivirus et anticonceptionnel. Dans l'univers de la Pax où une grande partie des individus choisissaient le cruciforme, tentaient l'immortalité, la contraception était une obligation. Après le mariage, on pouvait demander un antidote aux autorités de la Pax ou simplement l'acheter au marché noir quand on voulait avoir des enfants. Ou bien, si l'on ne choisissait ni la voie de la croix ni une famille, l'effet durait jusqu'à ce que la vieillesse ou la mort rende la chose inutile. Cela faisait des années que je n'avais pas pensé à cette piqûre-là. En fait, je crois que Abétique m'avait questionné sur ces vaccins à bord du vaisseau du consul, une dizaine d'années auparavant, un jour où nous discutions de médecine préventive et où j'avais mentionné la batterie d'injection de la garde nationale, notre jeune ami de 11 ou 12 ans, pelotonné sur un divan dans la fosse au lot, en train de lire un livre de la bibliothèque du vaisseau, semblait ne pas y prêter attention. « Non, » dis-je toujours appuyé sur mon coude. « Je parle d'une erreur. »« Tu es... »«
Moi ?»
chuchota-t-elle. « Tu as 21 ans standard. »«
Je suis... » »«
Toi ?»« De 11 années standard plus âgé que toi. »«
Incroyable !»
Tout son visage plongea dans le clair de lune lorsqu'elle me regarda.
« Tu peux faire des calculs. »« À un moment pareil. »
Je soupirais et roulais sur le ventre. Les draps étaient imprégnés de nos odeurs. Le vent, devenu encore plus fort, secouait les parois.
« J'ai froid !»
chuchota Aîné. Dans les jours et les mois à venir, je la prendrai dans mes bras lorsqu'elle dirait une chose pareille. Mais cette nuit-là, je réagis au pied de la lettre et me levai pour fermer la paroi coulissante. Le vent était plus froid que de coutume.
« Non !»
dit-elle.
« Quoi ? Ne ferme pas complètement !»
Elle était assise, le drap juste sous les seins. « Mais il fait... »«
La lumière de la lune est sur toi ?»
murmura Aînée. Sa voix a peut-être provoqué ma réaction physique, ou ce fut de la voir ainsi, m'attendant sur les couvertures. En plus de nos odeurs, la pièce sentait la paille fraîche à cause du nouveau tatami et du ryokan intégré au plafond. Mais la brise froide ne calma pas ma réaction.
« Viens ici !»
chuchota-t-elle, et elle ouvrit la couverture comme une cape dans laquelle m'enveloppait. Le lendemain, je travaille à la mise en place du passage suspendu et je suis comme un somnambule, en partie par manque de sommeil. L'oracle s'était couché et l'aube pâlissait à l'est lorsqu'Aînée retourna à son pavillon, mais surtout par pure et simple stupéfaction. La vie avait pris un tournant que je n'avais pas prévu, et jamais imaginé. Je fixe les supports du haut sentier dans l'escarpement. Les monteurs Haruyuki, Kenshiro et Wojtek Majer s'avancent les premiers pour creuser des trous dans la roche, tandis que Kim Byung-soon et Vicky Gosselge posent les briques derrière et en dessous de nous, et que le charpentier Chang-Chi Keng-chung installe derrière moi l'assise du plancher de bois de la terrasse. Il n'y aurait rien à quoi se raccrocher si les monteurs et moi tombions des poutres en bois, mais hier, l'homo n'a pas fait son numéro d'escalade libre et a mis en place des cordes statiques et des câbles. Lorsque nous sautons de poutre en poutre, il nous suffit d'agrafer l'un des mousquetons de notre harnais à la corde la plus proche. Je suis déjà tombé et ma chute a été arrêtée par ce genre de corde statique. Chacune peut porter 5 fois mon poids. Maintenant, je saute de poutre installée en tirant la suivante, suspendue à l'un des câbles. Le vent s'est levé et menace de me précipiter dans l'espace, mais je compense cela en touchant d'une main la poutre qui pendille et en posant 3 doigts sur la paroi rocheuse. J'atteins l'extrémité de la 3e corde statique, je me détache pour m'accoupler à la 4e des 7 lignes que l'homo a montées. Je ne sais pas que penser de la nuit dernière. Je sais ce que je ressens. Je suis euphorique, bouleversé, extasié, amoureux, mais je ne sais qu'en penser. J'ai tenté d'intercepter Aînée avant le petit déjeuner que nous prenons en commun dans le pavillon réfectoire, près de la résidence des moines, mais elle a déjà mangé, elle est en route pour le nouveau passage, à l'est, où ceux qui sculptent la terrasse ont eu un ennui. Puis, à Bétique, Georges Tsarong et Jigme Norbu se sont pointés avec les porteurs, et trier les matériaux, transporter les poutres, les ciseaux, le bois de charpente, et d'autres choses jusqu'aux nouveaux échafaudages, nous a occupés pendant 1 heure ou 2. Je me suis alors rendu sur la corniche orientale avant que la pose des poutres commence, mais Abetik et Tsipon Shakabba s'entretenaient avec Aînée. Aussi, je suis revenu au petit trot et me suis mis activement au travail. J'ai sauté jusqu'à la dernière poutre mise en place ce matin, prêt à installer la suivante dans le trou que Haruyuki et Kenshiro ont creusé au ciseau et avec de minuscules charges profilées de dynamite. Puis Wojtek et Vicky cimenteront le montant. En 1 demi-heure, il sera assez ferme pour que Chang-Chi y fixe une plateforme de travail. Je me suis habitué à sauter de poutre en poutre, à me stabiliser et m'accroupir pour mettre la nouvelle en place, et je suis maintenant perché sur la dernière. Je fais tournoyer mon bras gauche pour garder l'équilibre, pendant que mes doigts restent en contact avec la nouvelle poutre, suspendue au câble. Brusquement, elle se balance trop loin devant moi et, penchée au-dessus du vide, je manque de perdre l'équilibre. Je sais que la corde de sécurité me rattrapera, mais je déteste l'idée de tomber et de rester là à pendiller entre la dernière poutre et le trou que l'on vient de forer. Si je n'ai pas assez d'élan pour reculer d'un coup de pied jusqu'à la poutre précédente, je serai obligé d'attendre que Kenshiro ou l'un des autres gréeurs vienne à mon aide. En 1 fraction de seconde, je prends ma décision et je saute. J'attrape la poutre qui se balance et je donne un fort coup de pied. Comme la corde de sécurité a toujours plusieurs mètres de mou, tout mon poids repose maintenant sur mes doigts. La poutre est trop épaisse pour que ma prise soit sûre et je sens mes doigts glisser sur le bois dur comme du fer. Mais plutôt que de me laisser tomber à l'extrémité élastique de ma corde statique, je lutte pour rester suspendu, réussis à relancer le lourd montant vers la dernière poutre en place et franchis d'un bond les 2 derniers mètres. J'atterris sur la poutre glissante et bats l'air de mes bras. Riant de ma stupidité, je retrouve mon équilibre et reste là un moment, haletant, à regarder les nuages qui bouillonnent contre le rocher, à plusieurs milliers de mètres sous mes pieds. Changchi Kengchung saute de poutre en poutre pour me rejoindre, s'attachant au corps de statique avec une rapidité qui implique quelque urgence. Il y a comme une sorte d'horreur dans ses yeux et, durant une seconde, je me dis que quelque chose est arrivé à Aîné. Mon cœur commence à battre la chamade et l'inquiétude me perturbe tant que je suis sur le point de perdre l'équilibre. Mais je me rattrape et reste sur la dernière poutre fixée, attendant Changchi avec épouvante. Quand il saute jusqu'à moi, Changchi est trop essoufflé pour parler. Il me fait des signes pressants que je ne comprends pas. Peut-être m'a-t-il vu me balancer comiquement, danser et tressauter comme la poutre suspendue, et s'est-il inquiété? Pour lui montrer que tout va bien, je soulève la ligne de mon harnais pour qu'il voie le mousqueton fixé à la corde de sécurité. Il n'y a pas de mousqueton. Je n'ai jamais été attaché à la dernière corde statique. J'ai sauté, je me suis balancé, je suis resté suspendu et j'ai bondi de nouveau sans corde de sécurité. Il n'y avait rien entre moi et... Pris soudain de vertige et de nausée, je fais trois pas vacillants jusqu'à la paroi et m'appuie contre la pierre froide. Le surplomb essaie de me repousser et c'est comme si toute la montagne penchait vers l'abîme pour me faire tomber de la poutre. Changchi tire sur la corde fixée par l'homo, soulève un mousqueton du râtelier de mon harnais et l'accroche à celle-ci. Je le remercie d'un hochement de tête et m'efforce de ne pas vomir mon petit déjeuner tant qu'il est là, près de moi. À 10 mètres plus loin, sur la courbure de la paroi, Haruyuki et Kenshiro font de grands gestes. Ils ont creusé un autre trou parfait à la dynamite. Ils veulent que je rattrape mon retard. La petite troupe partant pour la réception que le Dalai Lama donne en l'honneur de la Pax à Potala s'en va juste après le repas de midi pris dans la salle à manger commune. J'y vois Aîné, mais sauf des regards éloquents et un sourire d'elle qui me rendent les jambes molles, nous n'échangeons rien en privé. Nous nous rassemblons au niveau le plus bas et des centaines d'ouvriers, de moines, de cuisiniers, de lettrés et de porteurs nous saluent de la main et nous acclament du haut des plateformes. Des nuages de pluie commencent à se gonfler et à se répandre entre les brèches basses de la ligne des crêtes orientales, mais le ciel, au-dessus de Swankunsu, est encore bleu et les banderoles de prières rouges claquant sur les terrasses élevées ressortent avec une netteté presque choquante. Nous portons tous des vêtements de marche, nos habits de soirée sont rangés dans des sacoches imperméables, portés en bandoulière ou, en ce qui me concerne, dans mon sac à dos. Les réceptions du Dalai Lama ont traditionnellement lieu le soir. Nous avons plus de 10 heures devant nous avant que notre présence soit exigée, mais le trajet par la voie haute durera 6 heures. En outre, des messagers et un volant arrivés à Jokung aujourd'hui ont dit que le mauvais temps régnait de l'autre côté de la crête de Kunlun. Aussi partons-nous d'un pas assez vif. L'ordre de marche est fixé par le protocole. Charles Shikyap Kempo, maire de Jokung et grand chambellan du temple suspendu dans les airs, marche quelques pas devant celui qui est presque son égal, Kempo Nga Wang Tashi, le supérieur du temple. Les vêtements de voyage de ces deux hommes sont plus resplendissants que ma tentative de tenue de soirée, et les petits groupes de frelons que constituent leurs assistants, leurs moines et leurs policiers les entourent. Derrière les politiciens prêtres, marche Gyalo Tondup, le jeune moine cousin du Dalai Lama actuel, et Lapsang Samten, frère du Dalai Lama, moine depuis 3 ans. Ils ont le pas aisé et le rire plus aisé encore de jeunes hommes à l'apogée de la santé physique et de la lucidité mentale. Leurs dents blanches luisent dans leur visage brun. Lapsang porte une chouba d'escalade d'un rouge brillant qui, tandis que notre cortège longe l'étroit passage menant à la crevasse de Jokung, le fait ressembler à une banderole de prière ambulante. Tsipon Chakappa, le contremaître du projet d'aîné, chemine avec Georges Tsarong, notre chef d'équipe joufflu. Jigme Norbu, son inséparable compagnon, est absent. Blessé de ne pas avoir été invité, Jigme est resté au temple. Je crois que c'est la première fois que je vois Georges ne pas sourire. Cependant, Tsipon compense son silence en racontant des histoires accompagnées de grands gestes extravagants. Plusieurs de leurs ouvriers marchent avec eux, du moins jusqu'à Jokung. Tromo Trotchi de Domu, le flamboyant représentant de commerce venu du Sud, chemine avec le seul être qui l'accompagne pendant les nombreux mois qu'il passe sur les routes, une zichèvre de bâche géante chargée de ses marchandises. L'animal porte, suspendu à son cou hirsute, trois clochettes qui carillonnent comme les cloches de prière du temple pendant que nous marchons. L'homo d'Ondrub doit nous rejoindre à Potala, mais sa présence est représentée symboliquement, au sommet du paquetage de la zichèvre, par l'échantillon d'un nouveau tissu de vol pour son paraglisseur. Aîné et moi formons l'arrière-garde du cortège. Plusieurs fois j'essaye d'évoquer la nuit dernière, mais elle me fait taire d'un doigt sur les lèvres et d'un hochement de tête désignant le négociant voisin et les autres membres de notre troupe. Je me contente d'une petite conversation sur le travail des derniers jours, la construction du pavillon du surplomb et des sentiers du temple, mais les questions continuent à se bousculer dans ma tête. Bientôt, nous arrivons à Jokung, où les rampes et les passages sont bordés d'une foule qui agite des drapeaux et des banderoles de prière. Les citoyens de la ville, qui habitent les terrasses de la fissure et les cabanes de l'escarpement, acclament leur maire et le reste d'entre nous. Une fois sortis de la ville de Jokung, près des plateformes de saut de l'unique voie du câble que nous utiliserons pour ce voyage, nous rencontrons un autre groupe qui se rend à la réception du Dalai Lama. La Dorje Phamo et ses 9 prêtresses. Elle voyage dans un palanquin porté par 4 mâles puissamment musclés, car elle est la supérieure du Gompa de Samden, un monastère d'hommes à quelques 30 clics de là, sur la paroi sud de la même crête qui abrite le temple suspendu dans les airs, situé, lui, sur la paroi nord. La Dorje Phamo a 94 ans standard, et elle avait 3 ans quand on découvrit qu'elle était l'incarnation de la Dorje Phamo originelle, la lait du tonnerre. C'est une femme d'une immense importance, et un monastère de femmes, le Gompa de l'Oracle, à Yamdrok Tso, à une 60aine de clics plus loin, sur la dangereuse paroi de l'arête, l'a gardée en tant que préfet et incarnation de la déesse pendant plus de 70 années standard. Maintenant, la lait du tonnerre, ses 9 compagnes prêtresses et ses 30 porteurs et gardes mâles attendent d'attacher à la voie du câble l'écolier de serrage du massif mousqueton de son palanquin. La Dorje Phamo, qui regarde entre ses rideaux, aperçoit notre groupe et fait signe à Aîné d'approcher. Je sais, d'après les dires spontanés de mon ami, qu'elle a fait plusieurs fois le voyage jusqu'au Gompa de l'Oracle, à Yamdrok Tso, pour rencontrer la lait et que toutes deux sont vite devenues amies. Je sais aussi, et cela c'est Abétik qui me l'a confié, que la Dorje Phamo a déclaré récemment à ses prêtresses et à ses nonnes du Gompa de l'Oracle, ainsi qu'aux moines du Gompa de Samden, que l'incarnation du Bouddha de miséricorde actuellement en vie, c'était Aîné et non pas sa sainteté, le Dalai Lama actuel. Ces paroles d'hérésie se sont répandues, toujours selon Abétik, mais à cause de la popularité dont jouit la lait du tonnerre sur toute la planète, le Dalai Lama n'a pas encore réagi à cette impertinence. Je regarde les deux femmes, ma jeune aînée et la silhouette âgée, dans le palanquin, bavarder et rire sans gêne, tandis que les deux groupes attendent de prendre le câble pour traverser l'abîme de Langma. La Dorje Phamo a dû insister pour que nous la précédions, car les porteurs écartent son palanquin et les 9 prêtresses s'inclinent bien bas, tandis qu'aînée fait avancer notre groupe sur la plateforme. Charles Chikyap Kempo et Kempo Ngawang Tashi semblent faire grise mine tandis qu'ils laissent leurs assistants les attacher au câble. Non par inquiétude pour leur sécurité, je le sais, mais à cause d'une entorse au protocole que je n'ai pas décelé et qui ne m'intéresse pas particulièrement. À ce moment, je ne me préoccupe que de mon désir d'être seul avec Aînée et de parler avec elle. Ou peut-être ai-je seulement envie de l'embrasser encore. Il pleut fort pendant notre marche vers Potala. Depuis 3 mois que je suis ici, j'ai connu pas mal d'averses d'été, mais ça, c'est la pluie torrentielle qui précède la mousson, glacée et glaçante, accompagnée de tentacules de brouillard qui s'enroulent autour de nous. Nous évacuons le câble avant que les nuages approchent, mais lorsque nous atteignons le versant oriental de la crête de Kunlun, la voie haute est glissante de verglas. Ce sont, sur l'escarpement abrupt, des corniches rocheuses, des sentiers en briques, puis des passages en bois le long de l'arête nord-ouest de Huashang, la fleur de la montagne, et une longue série de plateformes et de ponts suspendus qui relient ces lignes de crête glacée au Kunlun. Ensuite, c'est le deuxième pont suspendu le plus long de la planète, entre la crête du Kunlun et la crête de Fari, suivi par une autre série de passages, de ponts et de corniches, en direction du sud-ouest, qui longe le versant est de la crête de Fari jusqu'à la place du marché de Fari. Là, nous traversons la fissure et suivons la route de corniche à l'ouest de Potala. Normalement, ce trajet prend 6 heures quand le soleil brille, mais cet après-midi, c'est une marche lugubre, dangereuse, dans le brouillard ondulant et sous la pluie glacée. Ceux qui accompagnent le maire grand chambellan Charles Chikiap Kempo et le supérieur Kemponga Wangtashi tentent d'abriter leurs notables sous des parapluies jaunes et rouges brillants, mais la corniche de glace est souvent étroite, nous cheminons un par un, et ces personnages importants doivent fréquemment se mouiller afin de rester devant. Les ponts suspendus sont un cauchemar à traverser. Leur plancher n'est composé que d'un câble de chanvre tressé retenu par des cordes qui s'élèvent verticalement, d'autres horizontales servent de garde-fous, et un second câble épais passe au-dessus de nos têtes. Bien que ce soit généralement un jeu d'enfant de rester en équilibre sur le câble inférieur tout en gardant le contact avec les cordes latérales, cet exercice exige une concentration totale sous cette pluie battante. Tous les indigènes ont déjà pratiqué cela pendant des douzaines de moussons et ils avancent rapidement. Seuls aînés et moi hésitons lorsque les ponts fléchissent et tanguent sous le poids de notre groupe et que les cordes glacées semblent sur le point de nous glisser des mains. En dépit de la pluie, ou peut-être à cause d'elle, quelqu'un a allumé les torches de la voie haute tout le long du versant est de la crête du Fari, et les braseros qui brûlent nous aident à trouver notre chemin dans l'épais brouillard lorsque les passages de bois tournent, font un coude, descendent des marches glacées et aboutissent à d'autres ponts. Nous arrivons à la place du marché de Fari au crépuscule, bien que l'heure semble plus tardive à cause de l'obscurité. D'autres groupes en route pour le palais d'hiver nous y rejoignent et au moins 70 personnes se dirigent ensemble vers l'ouest par la fissure. Le palanquin de la Dorje Famo se balance toujours avec nous et je soupçonne ceux qui m'entourent de l'envier un peu d'être ainsi perché au sec. J'avoue que je suis déçu. Nous avions prévu d'arriver à Potala entre chiens et loups, à l'heure où une lueur rougeâtre éclaire encore les chaînes nord-sud et les cimes plus hautes au nord et à l'ouest du palais. Je n'avais jamais aperçu ce bâtiment auparavant, et j'attendais avec impatience de voir cette région. La large voie haute entre Fari et Potala n'est qu'une série de corniches et de passages éclairés par des torches. J'avais emporté la torche laser dans mon sac, sans bien savoir si c'était une réaction futile de défense, au cas où les choses tourneraient mal au palais, ou afin de trouver notre chemin dans le noir. La glace recouvre les rochers, les plateformes, les rampes en câbles de chanvre de ces chemins souvent parcourus, et il en est de même des escaliers. Je ne m'imagine pas en train de voyager par le câble cette nuit, mais la rumeur court que plusieurs invités aventureux le font. Nous arrivons à la cité interdite 2 heures avant que la réception commence. Les nuages se sont un peu éclaircis, la pluie diminue, et notre premier aperçu du palais d'hiver me coupe le souffle et me fait oublier ma déception de ne pas y être arrivé au crépuscule. Le palais d'hiver est construit sur un grand pic qui s'élève de la crête du Chapeau jaune. Il se découpe sur les cimes plus hautes du Coco Nord, et entre les nuages, nous découvrons d'abord le monastère local qui abrite 35 000 moines, le Drepung, grand bâtiment de pierre disposé en terrasse sur les pentes verticales, milliers de fenêtres luisant de la lumière des lanternes, lueur des torches sur les balcons, les terrasses et aux entrées. Derrière le monastère et ses toits d'or qui touchent le plafond de nuages tourbillonnants, s'élève Potala, le palais d'hiver du Dalai Lama, resplendissant de lumière et éclairé à contre-jour, même dans l'obscurité de l'orage, par les cimes couronnées d'éclairs du Coco Nord. Ici, les assistants et nos compagnons de voyage font demi-tour. Seuls les pèlerins invités, dont nous sommes, continuent et pénètrent dans la cité interdite. Maintenant, la voie haute s'aplanit et s'élargit pour devenir une véritable route, une avenue de 50 mètres de large, pavée de pierres dorées, bordée de torches et entourée d'innombrables temples, shurtens, petits gompas, dépendances de l'imposant monastère et poste de garde militaire. La pluie s'est arrêtée, mais la chaussée miroite de lueurs dorées et des centaines et des centaines de pèlerins et de résidents de la cité interdite, habillés de vives couleurs, vont et viennent devant les immenses murailles et les portes du Drepung et de Potala. Des moines en robe safran se déplacent en petits groupes silencieux. Des personnages officiels du palais, en robe rouge rutilant ou violet intense et chapeau jaune semblable à des soucoupes renversées, passent d'un air affairé devant les soldats en uniforme bleu qui portent des piques rayées noires et blancs. Des messagers officiels trottent en vêtements collants, orange, rouge, or et bleu. Des femmes de la cour glissent sur les dalles dorées dans de longues robes de soie bleu ciel, lapis lazuli intense et cobalt audacieux, leurs traînes froufroutant doucement sur le pavé mouillé. On reconnaît tout de suite les prêtres de la secte du chapeau rouge à leur coiffure de soie cramoisie en forme de soucoupe renversée et à leur frange rouge, tandis que les Drungpa, les habitants de la vallée boisée, circulent à grands pas avec leurs bonnets laineux en fourrure de zichèvre, leurs costumes ornés de brillantes plumes blanches, rouges, marrons et dorées, leurs grands sabres de cérémonie en or glissés dans leur haute ceinture. Les gens du peuple de la cité interdite sont moins colorés que les personnages officiels, cuisiniers, jardiniers, servantes, précepteurs, maçons, valets personnels, tous parés de tchoubas en soie verte et bleue ou dorée et orange. Ceux qui travaillent dans la résidence du Dalai Lama au palais d'hiver, ils sont plusieurs milliers, en habits or et cramoisi, portent tous des chapeaux aux bords rigides de 50 cm de large, en soie et bandes de zichèvre, afin de préserver leur teint pâle les jours où le soleil brille et de se protéger de la pluie durant la mousson. Notre bande de pèlerins mouillés semble terne et miteuse dans cet environnement, mais je pense peu à notre apparence lorsque nous franchissons la porte de 60 mètres de haut, percée dans l'un des murs extérieurs du Drepung, et commençons à traverser le pont Kichu. Ce pont, en plastacier le plus moderne, fait 20 mètres de large et 115 de long. Il scintille comme du chrome noir. En dessous, il n'y a rien. Le pont enjambe la dernière crevasse de cette chaîne qui plonge sur des milliers de mètres jusqu'au nuage de Phosgen. Du côté est, celui que nous quittons, les bâtiments du monastère, murs plats et fenêtres éclairées, s'élèvent à 2 ou 3 kilomètres au-dessus de nous. Et les lacis du câble administratif qui court entre le monastère et le palais proprement dit dessinent dans l'air de multiples toiles d'araignées. Du côté ouest, devant nous, Potala se dresse à plus de 6 kilomètres sur le versant de l'escarpement, ses milliers de facettes de pierre et ses centaines de toits dorés réfléchissent la foudre qui éclaire par intermittence les nuages d'en bas. En cas d'attaque, le pont Kichu peut, en moins de 30 secondes, rentrer dans l'escarpement, ne laissant ni escalier, ni corniche, ni prise d'escalade, ni fenêtre sur les 500 mètres de pierre verticale qui s'élèvent jusqu'au premier rempart. Le pont ne s'escamote pas lorsque nous le traversons. Des soldats en grande tenue sont alignés de chaque côté, armés d'une pique mortellement sérieuse ou d'un fusil à énergie. Arrivés tout au bout du Kichu, nous nous arrêtons au Pargo Kaling, le portail ouest, arcade décorée de 85 mètres de haut. De la lumière jaillit de l'intérieur du porche géant par un millier de dessins complexes, la lueur la plus brillante sortant des deux grands yeux, larges de plus de 10 mètres, qui regardent vers l'est sans jamais ciller. Chacun de nous s'arrête en passant sous le Pargo Kaling. Notre premier pas au-delà nous introduira sur le territoire du palais d'hiver, bien que la vraie porte se trouve encore à une trentaine de pas. Là restent encore les 1000 marches qui nous conduiront au bâtiment proprement dit. Aîné m'a dit que les pèlerins doivent venir de tous les points de Tien Shan sur leurs genoux, ou dans certains cas, en se prosternant à chaque pas, mesurant littéralement avec leur corps les centaines ou les milliers de kilomètres ainsi parcourus, pour obtenir le droit de passer sous le portail ouest et de toucher du front cette dernière partie du pont Kichu en hommage au Dalai Lama. Aîné et moi traversons côte à côte en échangeant des regards. Après avoir, à l'entrée principale, présenté nos invitations aux gardes et aux fonctionnaires, nous gravissons les 1000 marches. Je suis stupéfait de découvrir qu'il s'agit d'un escalier mécanique, même si Tromo Trochi de Domu nous chuchote que souvent il ne fonctionne pas, afin de permettre aux fidèles d'effectuer un ultime effort avant d'avoir le droit d'atteindre le palais. En haut, au premier niveau ouvert au public. On revérifie avec fébrilité nos invitations. Des domestiques nous dépouillent de nos tchoubas trempés et d'autres nous conduisent à nos chambres où nous pourrons nous baigner et nous changer. Le chambellan, Charles Chikiap Kempo, a droit à un petit appartement au 78e étage du palais. Et après ce qui nous semble d'autres kilomètres de couloirs, les fenêtres sur notre droite montrent les toits rouges du monastère de Drepung brillant par intermittence à la lumière de l'orage, nous sommes accueillis par d'autres domestiques qui, eux, nous sont affectés. Chacun de nous a au moins une alcôve entourée de rideaux, dans laquelle nous dormirons après la réception et des salles de bain attenantes nous offrent de l'eau chaude, des bains et des douches soniques modernes. Je suis aîné et lui souris lorsqu'elle me fait un clin d'œil en se dirigeant vers la salle embuée. Je n'avais pas de costume de soirée au temple suspendu dans les airs, ni d'ailleurs dans le vaisseau caché en ce moment sur la troisième lune, mais Lomo Dondrub et quelques autres à peu près de ma taille m'ont équipé en l'honneur de ce soir. Un pantalon noir très brillant, de grandes bottes noires, une chemise en soie blanche sous un gilet doré, un surgilet en laine rouge et noire en forme d'X, le tout serré dans une large ceinture de soie cramoisie. La cape de cérémonie, en soie militaire la plus fine des étendues orientales de Mustagalta, est noire mais bordée de dessins complexes rouges, or, argent et jaune. C'est la seconde meilleure cape de Lomo qui m'a expliqué clairement qu'il me jetterait de la plateforme la plus haute si je la tachais, si je la déchirais ou si je la perdais. Lomo est un homme sympathique, facile à vivre, chose rare chez un volant solitaire, m'a-t-on dit, mais je pense qu'il ne plaisantait pas en disant cela. Abétik m'a prêté les bracelets exigés pour l'occasion, achetés par lui sur un coup de cœur au beau marché de Siwangmu. Sur mes épaules, je dispose le capuchon rouge en laine de zichèvre et en plumes, prêté par Jigme Norbu, qui toute sa vie a attendu en vain une invitation au palais d'hiver. Autour du cou, je porte le talisman officiel de l'Empire du Milieu en maillon de jade et d'argent, politesse du maître charpentier et ami, Changchi Kengchung, qui m'a dit ce matin qu'il avait assisté à 3 réceptions données au palais et s'était, chaque fois, ennuyé à mourir. Des domestiques vêtus de soie d'or viennent nous annoncer qu'il est temps de nous réunir dans la grande salle de réception attenante à la salle du trône. Les couloirs fourmillent de centaines d'invités parcourant le sol carrelé, la soie bruit, les bijoux cliquettent et l'air est plein de senteurs dissonantes de parfums, d'eau de cologne, de savon et de cuir. Devant nous, j'aperçois la vieille Dorje Famo, la laide du tonnerre en personne, soutenue par 2 de ses 9 prêtresses, tout en élégante robe safran. La laide ne porte pas de bijoux, mais ses cheveux blancs sont enrubannés et relevés en masses élaborées de jolies tresses. La robe d'aînée est simple, mais stupéfiante de beauté, en soie d'un bleu intense, avec un capuchon cobalt qui couvre ses épaules nues, le talisman de l'Empire du Milieu, en jade et en argent, brille sur son sein et un peigne en argent planté dans ses cheveux maintient en place un fin demi-voile. Beaucoup de femmes que je vois se sont, ce soir, voilées par pudeur, et je trouve que cela masque ingénieusement les traits de mon amie. Elle me prend par le bras, et nous longeons en cortège les couloirs interminables, puis nous tournons à droite et montons par les escalators en colimaçon vers les appartements du Dalai Lama. Je me penche et chuchote à son oreille voilée. Inquiète. Je vois l'éclat de son sourire sous le voile, elle me serre la main. Insistant, je murmure, ma grande. Tu vois parfois l'avenir, je le sais. Alors, on s'en sortira vivant ce soir ? Je me plie en deux lorsqu'elle se rapproche pour me répondre à mi-voix. Seules quelques petites choses sont fixées dans l'avenir, Roll. La plupart sont aussi fluctuantes que...
D'un geste, elle montre une fontaine tournoyante devant laquelle nous passons pendant notre montée en spirale.
Mais je n'ai pas de raison de m'inquiéter, tu comprends ? Il y a ici ce soir des milliers d'invités. Le Dalai Lama ne peut en accueillir personnellement que quelques-uns. Ses invités, de la Pax, quels que soient ceux qui la représentent, n'ont aucune raison de penser que nous sommes là.
J'acquiesce d'un signe de tête, mais je ne suis pas convaincu. Soudain, l'absent Xamten, le frère du Dalai Lama, descend à grand bruit l'escalier mécanique qui monte, infraction au protocole.
Le moine sourit d'une oreille à l'autre et postillonne d'enthousiasme. Il s'adresse à notre groupe, mais des centaines de personnes se penchent pour l'entendre.
« Les invités de l'espace sont des gens très importants !»
dit-il avec ferveur.
« J'ai parlé avec notre précepteur, qui est aussi l'assistant du commandant au second du ministre du protocole. Parmi ceux que nous accueillons ce soir, il n'y a pas que des missionnaires. »
« Non ?» s'étonne le chambellan, Charles Chikiap Kempo, resplendissant dans ses nombreuses couches de soie rouge et or.
« Non, il y a un cardinal de l'église de la Pax, un cardinal très influent, qu'accompagne plusieurs de ses gens haut placés. »
Je sens mon estomac se retourner, puis tomber en chute libre.
« Quel cardinal ?»
demande Aîné. Sa voix semble calme et simplement intéressée. Nous approchons du sommet de l'escalier en spirale, et le bruit de centaines ou de milliers d'invités qui chuchotent doucement remplit l'air. L'absent Xamten rajuste sa robe de moine.
« Mustapha !» dit-il d'un air radieux. « Il est très proche du pape, je pense. La Pax honore mon frère en le lui envoyant comme ambassadeur. »
Je sens la main d'Aîné se refermer sur mon bras, mais je ne peux pas voir clairement son expression au travers du voile.
« Et plusieurs autres invités de la Pax sont des gens importants !»
poursuit le moine en se retournant dans le bon sens à l'approche du niveau où va se dérouler la réception.
« Y compris d'étranges femmes. Du genre militaire, je pense. »«
Savez-vous leur nom ?»
demande Aîné.
« Celui de l'une d'entre elles, oui, » répond l'absang. « Le général Némès. Elle est très pâle. »
Le frère du Dalai Lama adresse à Aîné son large sourire sincère.
« Le cardinal a demandé à vous rencontrer personnellement, Aîné. Vous et votre cavalier, Achandimian. Le ministre du protocole était très surpris, mais il a organisé une audience privée pour que vous rencontriez les gens de la Pax, ainsi que le régent, et bien sûr mon frère, sa sainteté, le Dalai Lama. »
Notre ascension prend fin. L'escalier entre en douceur dans le sol de marbre. Aîné à mon bras, je pénètre dans le bruit et le chaos étroitement contrôlé de la grande salle de réception. Chapitre 19. Le Dalai Lama n'a que 8 ans standard. Je le savais, Aîné, Abétique, Théo et Rachel ayant mentionné ce fait plusieurs fois, mais je suis tout de même surpris de voir l'enfant assis sur un grand trône garni de coussins. Il doit y avoir 3 ou 4 000 personnes dans l'immense salle. Plusieurs larges escalators dégorgent simultanément les invités dans un hall d'entrée grand comme un hangar d'astronef. Des piliers dorés s'élèvent jusqu'au plafond, ornés de fresques, à 20 mètres au-dessus de nous. Sous nos pieds, il y a des carreaux bleus et blancs où sont insérées des images tirées du Bardo Todol, du Livre des morts tibétains, ainsi que des illustrations de la migration du vaste vaisseau d'ensemencement des émigrés bouddhistes de l'ancienne terre, et nous passons sous d'immenses arches d'or pour pénétrer dans la salle de réception. Cette dernière est plus grande encore, avec en guise de plafond une lucarne géante par laquelle on distingue parfaitement les nuages qui bouillonnent, les éclairs qui luisent par intermittence et le flanc de la montagne éclairé par les lanternes. Les 3 ou 4 000 invités ont revêtu de brillants atours, soie flottante, lin en plis sculpturaux, laine teinte drapée, profusion de plumes rouges, noires et blanches, coiffures élaborées, tiares, bracelets, colliers, bracelets de cheville, discrets mais joliment ouvrés, ceinture d'argent, d'améthyste, d'or, de jade, de lapis-lazuli et d'une douzaine d'autres métaux précieux. Pourtant, la pièce est si grande que ces milliers de personnes sont loin de la remplir. Le parquet luit à la lumière du feu et 20 mètres séparent les premiers rangs de la foule du trône doré. De petits corps résonnent lorsque les files d'invités descendent de l'escalator pour mettre le pied sur les carreaux du hall d'entrée. Les trompettes sont en cuivre et en os. La rangée de moines qui soufflent dedans va des escaliers aux arches de l'entrée, plus de 60 mètres d'un bruit constant. Les centaines d'instruments tiennent une note pendant plusieurs minutes, puis émettent une autre note basse sans qu'il y ait eu aucun signal de musicien à musicien, et tandis que nous pénétrons dans la grande salle de réception, l'antichambre agit comme une chambre d'écho géante derrière nous, ces notes basses sont reprises et amplifiées par des corps longs de 24 mètres de chaque côté de notre cortège. Les moines qui soufflent dans ces monstrueux instruments sont dans de petites alcôves pratiquées dans les murs, les corps géants reposent sur le parquet, leurs extrémités se recourbent comme des fleurs de lotus larges d'1 mètre. L'énorme gong, frappé à intervalles précis, qui résonne à moins de 5 mètres de là, vient s'ajouter à cette série constante et grave de notes. L'encens brûlé dans les brasiers embaume l'air. Le voile ténu de fumée odorante qui flotte au-dessus des têtes coiffées et ornées de bijoux semble miroiter et suivre le mouvement ascendant et descendant des notes des trompettes, des cors et du gong. Tous les visages sont tournés vers le Dalaï Lama, son entourage immédiat et ses invités. Je prends la main d'aîné et nous nous dirigeons vers la droite pour rester à l'écart du trône et de son estrade. Des constellations d'invités importants s'avancent avec appréhension entre le trône lointain et nous. Soudain, les notes graves du cor se taisent. Les dernières vibrations du gong résonnent et meurent. Tous les invités sont présents. Des domestiques, mis à rude épreuve, ferment les immenses portes derrière nous. J'entends le crépitement des flammes des innombrables braseros qui sont de l'autre côté de cet espace géant, générateur d'écho. La pluie tambourine soudain la lucarne de cristal au-dessus de nos têtes. Le Dalaï Lama sourit légèrement, assis en tailleur sur de multiples coussins de soie, perché sur une estrade qui le met à la hauteur des yeux de ses invités debout. La tête du petit garçon est nue et rasée. Il porte une simple robe rouge de lama. À sa droite, plus bas, le régent, qui règnera en accord avec d'autres grands prêtres jusqu'à ce que sa sainteté le Dalaï Lama arrive à l'âge de 18 ans standard, est également assis sur un trône. Aîné m'a parlé de cet homme appelé Rétin Tokra qui, dit-on, est l'incarnation de la ruse, mais tout ce que je peux voir de loin, c'est l'habituelle robe rouge, un visage long et maigre, pincé, brun, orné d'une minuscule moustache et des yeux bridés. À la gauche du Dalaï Lama, il y a le grand chambellan, le supérieur des supérieurs. Cet homme est très vieux et sourit largement aux phalanges d'invités. À côté de lui, l'oracle d'État, une mince jeune femme aux cheveux sévèrement coupés courts, porte un corsage de lin jaune sous sa robe rouge. Aîné m'a expliqué que le travail de l'oracle d'État consiste, plongé dans une transe profonde, à prédire l'avenir. À la gauche de cette femme, leur visage caché en grande partie à ma vue par les piliers dorés du trône du Dalaï Lama, se tiennent les 5 émissaires de la Pax. Je peux distinguer un homme trapu en rouge de cardinal, 3 silhouettes en soutane noire et une au moins en uniforme militaire. À la droite du trône du régent, je reconnais le héros, chef de la sécurité de sa sainteté, le légendaire Karl Linga William Eiheji, archezen, aquarelliste, maître de karaté et de composition florale, philosophe et ex-volant. Eiheji semble fait de ressorts d'acier enveloppés de muscles lorsqu'il s'avance à grands pas et remplit l'immense salle de sa voix.
Honorables invités, visiteurs venus d'autres mondes, Dukpa, Drukpa, Drongpa, ceux venus des crêtes les plus hautes, des nobles fissures et des pentes des vallées boisées. Dzasa, honorable fonctionnaire, chapeau rouge et chapeau jaune, moine, supérieur, novice Getzel, co-sas du 4e rang et d'autres plus élevés, bienheureux qui portait le sou Guy, épouse et mari de ces honorables personnes, chercheurs de l'éveil. Je suis heureux de vous accueillir ici ce soir de la part de sa sainteté, Getswang Nuang Lopsang Tenging Gyapso Singsung Wangyur Chungpa Mapai Depal Sangpo. Saint, douce gloire, puissance de parole, pur d'esprit, plein de divine sagesse, gardien de la foi, grand comme l'océan.
Les petites trompettes de cuivre et d'os lancent des notes hautes et claires. Les grands corps mugissent comme des dinosaures. Le gong fait vibrer nos os et nos dents. Le héros recule. Sa sainteté, le Dalaï Lama, parle, sa voix d'enfant, douce, mais claire et ferme, remplit le vaste espace.
Merci à vous tous d'être venus ce soir. Nous accueillerons nos nouveaux amis de la Pax d'une manière plus intime. Beaucoup d'entre vous ont demandé à me voir. Vous recevrez ma bénédiction en audience privée ce soir. J'ai demandé à parler à certains d'entre vous. Ils me verront en audience privée ce soir. Nos amis de la Pax parleront avec beaucoup d'entre vous ce soir et dans les jours à venir. En vous entretenant avec eux, je vous en prie, souvenez-vous que ce sont nos frères et nos sœurs dans le Dharma, dans la quête de l'éveil. Je vous en prie, souvenez-vous que notre souffle est leur souffle et que notre souffle est le souffle du Bouddha. Merci. Je vous en prie, passez une bonne soirée.
Puis l'estrade et les trônes rentrent silencieusement dans le mur qui s'ouvre, sont dissimulés par un rideau qui glisse, puis par un autre, enfin par la cloison elle-même, et les milliers d'invités présents dans la grande salle de réception cessent de retenir leur souffle. La soirée fut, comme je m'en souviens, la combinaison presque surréelle d'un bal de gala tournoyant autour d'une audience papale compassée. Je n'ai, bien sûr, jamais assisté à une audience papale. Le cardinal mystérieux sur l'estrade maintenant fermé par des rideaux est le représentant le plus élevé de l'Église que j'ai vu de ma vie. Mais l'excitation de ceux que recevait le Dalai Lama doit être semblable à celle éprouvée par un chrétien qui rencontre le pape. La pompe qui accompagnait leur présentation était impressionnante. Des moines soldats en robe rouge et chapeau rouge ou jaune escortaient les heureux mortels invités à franchir le premier rideau, puis d'autres, et enfin la porte donnant accès au Dalai Lama, tandis que le reste d'entre nous se déplaçait et se mêlait sur le parquet éclairé par la lumière des torches, ou dégustait l'excellente nourriture présentée sur les grandes tables, ou même dansait sur la musique d'un petit orchestre. Et là, pas de trompette en cuivre et en os, ou de corps de 4 mètres de long. J'avoue que j'ai demandé à Aînée si elle avait envie de danser, mais elle sourit, fit non de la tête, et conduisit notre groupe à la table de banquet la plus proche. Bientôt, nous engageâmes la conversation avec la Dorje Phamo et certaines de ses prêtresses. Sachant que je commettais peut-être un faux pas, je demandais néanmoins à la belle femme âgée pourquoi on l'appelait la lait du tonnerre. Tandis que nous croquions des boulettes frites de tsampa et buvions un thé délicieux, la Dorje Phamo rit et nous raconta son histoire. Sur l'ancienne terre, la supérieure d'un monastère bouddhiste tibétain, ne comptant que des hommes, se gagna une curieuse réputation. Le bruit se répandit qu'elle était la réincarnation de la lait du tonnerre, une semi-déesse douée d'un pouvoir effrayant. On raconte que cette première prieure, Dorje Phamo, s'était non seulement transformée en cochon, mais avait aussi métamorphosé les lamas du monastère afin d'effrayer des soldats ennemis. Quand je demandais à cette dernière réincarnation de la lait du tonnerre si elle avait gardé le pouvoir de se changer en truie, l'élégante vieille dame leva la tête et dit d'un ton ferme « Si cela pouvait mettre en fuite les envahisseurs actuels, je le ferais à l'instant même. » Ce fut la seule chose négative que nous entendîmes énoncer, tout haut, sur les émissaires de la Pax pendant les 3 heures que nous passâmes, Aînée et moi, à bavarder, écouter de la musique et regarder les éclairs par la grande lucarne, bien que sous les atours de soie et la gaieté de la fête, un courant sous-jacent d'inquiétude parut circuler. Ce qui semblait naturel puisque le monde de Tien Shan aurait été totalement isolé de la Pax et du reste de l'humanité post-hégémonique pendant près de 3 siècles sans la venue occasionnelle du vaisseau de descente de quelques libres négociants. La soirée se prolongeait et je devins convaincu que la déclaration de Lapsang Samten était erronée, que le Dalai Lama et ses invités de la Pax ne souhaitaient sans doute pas nous voir, quand soudain plusieurs employés du palais coiffés de grands chapeaux rouges et jaunes, ressemblant un peu au casque des anciens Grecs que j'avais vus sur des illustrations, vinrent nous chercher et nous prièrent de les accompagner auprès du Dalai Lama. Je regardais mon amie, prêt à fuir avec elle et à couvrir notre retraite si elle montrait le moindre soupçon de peur ou de réticence, mais Aînée acquiesça simplement d'un hochement de tête et prit mon bras. L'océan des invités nous laissa le passage, tandis que nous traversions l'immense salle, marchant tous deux lentement, bras dessus, bras dessous, comme si j'étais son père lors d'un mariage traditionnel à l'église, ou comme si nous étions nous-mêmes les époux. Dans ma poche, j'avais la torche laser et le journal disque. Le laser ne vaudrait pas grand-chose si la Pax décidait de s'emparer de nous, mais j'étais prêt à appeler le vaisseau si le pire se produisait. Plutôt que de les laisser capturer Aînée, je le ferai descendre sur ses réacteurs en flammes à travers cette jolie lucarne. Nous franchîmes le rideau extérieur et pénétrâmes dans un espace fermé où les sons de l'orchestre et des réjouissances étaient encore très audibles. Là, plusieurs membres de la sécurité nous demandèrent de tendre les bras, les paumes tournées vers le plafond. Ils déposèrent dans nos mains une écharpe de soie blanche dont les extrémités pendaient. On nous fit signe de franchir le second rideau. Là, le grand chambellan nous accueillit en s'inclinant. Aîné répondit par une gracieuse révérence, moi par une courbette maladroite, et nous entrâmes dans une petite pièce où le Dalaï Lama nous attendait avec ses invités. Cet espace privé était une extension de la salle du trône. Or, dorures, brocarts de soie et tapisseries ornées d'innombrables svastikas inversés entre des images de fleurs épanouies, de dragons à la queue enroulée et de mandalas tournoyants. Les portes se refermèrent derrière nous et les bruits de la fête auraient été complètement étouffés sans les transmetteurs de trois moniteurs vidéo scellés dans le mur sur notre gauche. Une vidéo, en temps réel de la fête, était prise par différentes caméras placées autour de la grande salle de réception, et le jeune garçon assis sur le trône, ainsi que ses invités, la regardait avec une attention profonde. Nous restâmes immobiles jusqu'à ce que le grand chambellan nous fasse signe d'avancer. Tandis que nous nous approchions du trône et que le Dalaï Lama se tournait vers nous, cet homme nous confia « Il n'est pas nécessaire de saluer avant que sa sainteté lève la main. À ce moment, restez inclinés jusqu'à ce qu'il cesse de vous toucher. » Nous nous arrêtâmes à trois pas de l'estrade surélevée du trône couvert de courtes pointes chatoyantes et de coussins drapés. Carl Linga William Eiheji, le héros, dit d'un ton doux mais sonore «
Votre sainteté, l'architecte chargé des constructions du Swang Kung-su et son assistant. »
« Son assistant ?»
Je m'avançais un pas derrière aîné, confondu et plein de gratitude envers le héros qui n'avait pas énoncé nos noms. J'aperçus du coin de l'œil les cinq personnages de la Pax, mais le protocole exigeait que je reste tourné vers le Dalaï Lama, les yeux baissés.
Aîné s'arrêta au bord de la haute plateforme du trône, les bras levés devant elle, l'écharpe tendue entre ses mains. Le grand chambellan posa dessus plusieurs objets, le petit garçon se pencha et les prit rapidement pour les déposer à sa droite, sur l'estrade. Ensuite, un domestique vint ôter l'écharpe blanche. Aîné joignit les mains comme en prière et s'inclina. Le sourire du petit garçon était plein de gentillesse lorsqu'il se pencha en avant et toucha la tête de mon ami, de ma bien-aimée, en posant ses doigts comme une couronne sur ses cheveux bruns. Je compris que c'était une bénédiction. Quand il ôta les doigts, il s'empara d'une écharpe rouge sur une pile à sa gauche et la posa dans la main gauche d'aîné. Puis il lui prit la main droite et la serra avec un sourire encore plus épanoui. Le grand chambellan fit signe à aîné de se poster devant le trône moins haut du régent, tandis que je m'avançais et m'acquittais de la même rapide cérémonie. J'eus tout juste le temps de remarquer que les objets posés sur l'écharpe blanche par le chambellan et subtilisés si vite par le Dalaï Lama comprenaient différents petits bas-reliefs, trois montagnes figurant le monde de Tien Shan, comme me l'expliqua plus tard aîné, un corps humain, un livre stylisé symbolisant la parole et un shorten ou temple représentant l'esprit. Leur apparition et leur disparition s'effectua avant que j'aie eu le temps d'y prêter plus d'attention, puis l'on déposa l'écharpe rouge dans ma main pendant que la menotte du petit garçon s'emparait de ma grande et grosse paluche. Sa poignée de main fut étonnamment ferme. J'avais les yeux baissés, mais j'aperçus tout de même son large sourire. Je reculai pour me ranger à côté d'aîné. La même cérémonie se déroula rapidement devant le régent, l'écharpe blanche, les objets symboliques posés et ôtés, l'écharpe rouge. Mais Rating Tokra ne nous serra pas la main, ni à elle, ni à moi. Quand nous eûmes reçu la bénédiction du régent, le grand chambellan nous fit signe de relever la tête. Je faillis sortir la torche laser de ma poche et tirer sauvagement. À côté du Dalaï Lama, de ses moines domestiques, du grand chambellan, du régent, de l'oracle d'État, du héros, du cardinal trapu, des trois hommes en soutane noire, il y avait une femme en uniforme rouge et noir de la flotte de la Pax. Elle venait juste de contourner un grand prêtre, si bien que nous pûmes voir son visage pour la première fois. ses yeux noirs étaient fixés sur Énée. Les cheveux courts de cette femme retombaient sur son front pâle en une frange informe. Sa peau était cireuse, son regard reptilien, à la fois distant et intense. C'était la chose qui avait essayé de tuer Énée, Abétique et moi sur le bosquet de Dieu, il y avait 5 de mes années, plus de 10 pour Énée. C'était la machine tueuse non humaine qui avait vaincu le Gritch et aurait emporté la tête d'Énée dans un sac sans l'intervention du père capitaine de Soya, resté dans son vaisseau sur orbite. Il avait utilisé toute sa puissance de fusion pour précipiter le monstre dans un chaudron de roche fondue bouillonnant. Et elle était là, de nouveau, ses yeux noirs, inhumains, fixés sur le visage d'Énée. Il était évident qu'elle l'avait cherché à travers le temps et l'espace, et maintenant, elle la tenait. Elle nous tenait. Mon cœur battait la chamade, mes jambes étaient en coton, mais malgré le choc, mon esprit travaillait comme une IA. La torche laser était fourrée dans une poche droite de ma cape. L'unité com était dans la poche gauche de mon pantalon. De la main droite, je pouvais envoyer le rayon tranchant dans l'œil de la chose femelle, puis manipuler le sélecteur pour élargir le rayon d'action et aveugler les prêtres de la Pax. De la main gauche, j'enverrai une salve du message préenregistré par faisceau serré au vaisseau. Mais même si celui-ci réagissait aussitôt et n'était pas intercepté par un astronef de la Pax, il s'écoulerait plusieurs minutes avant qu'il puisse traverser la lucarne du palais. Nous serions déjà morts. Je connaissais la rapidité de cette chose dans son combat contre le Gritch. Elle avait simplement disparu, était devenue une tache floue de chrome. Je ne sortirai jamais le laser ou l'unité comme de mes poches. Nous serions morts avant que ma main arrive à mi-chemin de l'arme. Je restai immobile, constatant que, bien qu'elle ait dû reconnaître aussitôt la femme, Énée n'avait pas réagi comme moi. Pas réagi du tout à la voir. Elle souriait toujours. Son regard était passé sur les visiteurs de la Pax, y compris le monstre, puis était revenu se fixer sur le petit garçon assis sur le trône. Rating Tokra parla le premier.
Nos invités ont demandé cette audience. Ils ont entendu Sa Sainteté parler de la reconstruction du temple suspendu dans les airs et souhaitaient rencontrer la jeune femme qui a conçu ce projet.
La voix du régent était aussi pincée et inflexible que ses traits. Le Dalaï Lama prit alors la parole et sa voix douce de petit garçon fut aussi généreuse que celle du régent avait été circonspecte.
« Mes amis, dit-il en faisant un geste vers Énée et moi, puis-je vous présenter nos distingués visiteurs de la Pax? Le cardinal John Domenico Mustafa, du Saint-Office de l'Église catholique, l'archevêque Jean-Daniel Breck, du corps diplomatique papal, le père Martin Farrell, le père Gérard Leblanc, et le commandant Radamante Némès de la garde noble. »
Nous saluâmes d'un signe de tête. Les dignitaires de la Pax, y compris le monstre, firent de même. Si Sa Sainteté le Dalaï Lama commit une infraction au protocole, personne ne parut la remarquer. John Domenico Mustafa dit d'une voix suave
« Merci, votre sainteté. Mais vous ne nous avez présenté ces personnes exceptionnelles que comme l'architecte et son assistant. »
Le cardinal nous sourit, révélant de petites dents pointues.
« Vous avez des noms, peut-être ?»
Mon pouce accéléra. Les doigts de ma main droite frémirent tandis que je pensais à la torche laser. Énée souriait toujours, mais ne faisait pas mine de répondre au cardinal. Mon esprit galopait à la recherche de faux noms.
Mais à quoi bon?
Il connaissait certainement nos identités. C'était un piège. La Némès ne nous laisserait jamais quitter cette salle du trône. Où nous attendrait à la sortie? Chose surprenante, ce fut le Dalaï Lama qui répondit.
Je compléterai mes présentations avec plaisir, votre éminence. Notre architecte s'appelle Ananda et son assistant, l'un de ses nombreux assistants habiles, m'a-t-on dit, s'appelle Subadda.
J'avoue qu'en entendant cela, je plissais les yeux. Quelqu'un avait-il soufflé ces noms au Dalaï Lama? Après, Énée m'apprit qu'Ananda fut le principal disciple du Bouddha et devint un maître. Subadda, un ascète errant, fut le dernier disciple direct du Bouddha, car il le rencontra quelques heures avant sa mort. Elle me dit aussi que le Dalaï Lama nous présenta sous ses noms en s'amusant de l'ironie de la chose.
Ash Ananda, dit le cardinal Mustafa en s'inclinant légèrement. Ash Subadda,
Il nous regarda des pieds à la tête.
« Vous voudrez bien excuser mon franc-parler et mon ignorance, Ashananda, mais vous semblez avoir une origine raciale différente de la plupart des gens que nous avons rencontrés à Potala ou dans les régions environnantes de Tien Shan. »
Aîné acquiesça d'un signe de tête.
« Il faut se garder des généralisations, votre éminence. Certaines parties de ce monde ont été colonisées par des vaisseaux d'ensemencement venus de nombreux pays de l'ancienne Terre. »
« Bien sûr, » ronronna le cardinal. « Et je dois dire que vous parlez l'anglais du Retz sans aucun accent. Puis-je vous demander quelle région de Tien Shan vous considérez comme votre lieu de naissance, votre assistant et vous ?»«
Certes, » répondit Aîné d'une voix aussi douce que celle du cardinal. « Je suis arrivé en ce monde dans une chaîne de crêtes au-delà du mont Moria et du mont Sion, au nord-ouest de Mustagalta. »
Le cardinal hocha judicieusement la tête. Je remarquai alors que son col, Aîné m'apprit plus tard que cela s'appelait un rabat dans la terminologie de l'Église, était en soie moirée écarlate, de la même couleur que sa soutane et sa calotte.
Seriez-vous, par hasard, deux fois juive ou musulmane qui, nous ont dit nos hôtes, prédomine dans ces régions ?
Je n'ai pas la foi, répondit Aîné. Si parfois on entend croyance au surnaturel.
Le cardinal haussa un peu les sourcils. L'homme qui s'appelait le père Farrel jeta un coup d'œil à son patron. Le terrible regard de Radamante Némès ne vacillait jamais.
Pourtant, vous travaillez à la construction d'un temple bouddhiste,
dit le cardinal d'un ton assez aimable.
On m'a embauché pour travailler sur un bel ensemble de bâtiments. Je suis fier d'avoir été choisi pour cette tâche.
« En dépit de votre manque de croyance au surnaturel. »
J'entendis l'inquisition dans sa voix. Même sur les landes rurales d'Hyperion, nous connaissions le Saint-Office.
« Peut-être à cause de ce manque, votre éminence, et de la confiance accordée à mes capacités humaines et à celles de mes compagnons. »
« Ainsi, la tâche suffit à sa propre justification. »
insista le cardinal,
même si elle n'a pas de signification plus profonde.
Peut-être une tâche bien faite a-t-elle une signification plus profonde ?
Le cardinal Mustapha gloussa. Ce ne fut pas agréable à entendre.
Bien dit, jeune dame. Bien dit.
Le père Farrel s'éclaircit la gorge.
La région qui s'étend au-delà du mont Sion,
dit-il d'un air songeur,
nous avons remarqué durant notre inspection orbitale qu'il y avait un unique distran sur une ligne de crête de cette zone. Nous croyions que Tien Shan n'avait jamais fait partie du Retz, mais nos archives révèlent que le portail avait été terminé très peu de temps avant la chute.
« Et il n'a jamais servi !»
s'exclama le jeune Dalai Lama en levant un doigt mince.
« Personne n'est jamais venu sur les montagnes du ciel par le distran de l'hégémonie, ni n'en est jamais parti. »
« C'est vrai !»
dit le cardinal Mustapha d'une voix douce.
« Du moins, c'est ce que nous avons supposé, mais il faut que nous vous présentions nos excuses, votre sainteté. Dans son zèle à sonder la structure du vieux portail d'Istrans, notre vaisseau a fait fondre accidentellement les roches qui l'entouraient. La porte est scellée à jamais dans le roc, j'en ai bien peur. »
Je jetai un coup d'œil à Radamante Némès lorsqu'il dit cela. Elle ne s'y a pas. Je ne l'avais jamais vu cligner des yeux. Son regard était rivé sur Aîné. Le Dalai Lama fit un geste dédaigneux.
« Peu importe, votre éminence. Nous n'avons rien à faire d'un portail d'Istrans qui ne fut jamais utilisé. À moins que la Pax n'ait trouvé moyen de les réactiver. »
Il rit à cette idée. C'était un charmant rire d'enfant, mais pétillant d'intelligence.
« Non, votre sainteté, »
dit le cardinal Mustapha, toujours avec le sourire.
« Même l'Église n'a pas trouvé moyen de réactiver le réseau d'Istrans. Et c'est presque sûrement préférable. »
Ma tension tournait rapidement à la nausée. Ce vilain petit bonhomme en rouge cardinal disait à Aîné qu'il savait comment elle était arrivée sur Tien Shan et qu'elle ne pourrait pas fuir par le même chemin. Je jetai un coup d'œil à mon amie, mais elle semblait placide et ne s'intéressait que moyennement à la conversation. Y avait-il un second portail d'Istrans dont la Pax ignorait l'existence? Au moins cela expliquerait pourquoi nous étions encore vivants. La Pax avait scellé le trou de souris d'aîné et avait un chat, plusieurs chats, leur vaisseau diplomatique en orbite et sans doute d'autres vaisseaux de guerre cachés quelque part dans le système qui l'attendaient. Si j'étais arrivé quelques mois plus tard, ils se seraient emparés de notre vaisseau ou l'auraient détruit, et aîné aurait tout de même été là où il la voulait. Mais pourquoi attendre? Et pourquoi ce jeu?
Cela nous intéresserait énormément de voir votre... comment s'appelle-t-il déjà? Votre temple suspendu dans les airs.
Ce doit être fascinant, dit l'archevêque Breck. Le régent fronça les sourcils.
C'est un peu difficile à organiser, votre excellence, dit-il. La mousson approche, les voies du câble seront très dangereuses, et même la voie haute est hasardeuse durant les tempêtes hivernales.
Ne dites pas de sottises,
s'écria le Dalaï Lama sans tenir compte du visage renfrogné, en lame de couteau, que le régent tournait vers lui.
Nous serons très heureux de vous aider à organiser une expédition,
poursuivit le petit garçon.
Il faut absolument que vous voyiez Swan Kung Su, ainsi que tout l'Empire du Milieu. Même le Taishan, le Grand Pic, dont l'escalier de 27 000 marches monte jusqu'à l'empereur de Jade et la princesse des nuages d'azur.
Votre sainteté,
murmura le grand chambellan la tête penchée, mais non sans avoir d'abord échangé un regard empreint de pouvoir parental avec le régent.
Il faut que je vous rappelle que le Grand Pic de l'Empire du Milieu peut être atteint par le câble seulement au printemps, à cause des hautes marées de nuages empoisonnés. Pendant les 7 mois à venir, Taishan est inaccessible au reste de l'Empire du Milieu et de la planète.
Le sourire de connivence du Dalaï Lama s'effaça. Non, pensais-je, par irritabilité, mais du déplaisir d'être traité avec condescendance. Quand il parla de nouveau, sa voix avait la dureté du commandement. Je n'ai pas connu beaucoup d'enfants, mais de nombreux officiers militaires, et si je peux miser sur mon expérience, ce garçon deviendra un homme et un commandant redoutable.
Monsieur le grand chambellan, je suis, bien sûr, au courant de la fermeture de la voie du câble. Tout le monde sait cela. Mais je sais aussi que tous les hivers, quelques intrépides volants se rendent de Songshan au Grand Pic. Sinon, comment pourrions-nous partager nos décrets officiels avec nos amis, les fidèles de Taishan? Certaines des paravoiles peuvent recevoir plus d'un volant, des passagers même, n'est-ce pas?
Le grand chambellan s'inclina si profondément que je craignis que son front n'aille frôler les carreaux protocolaires. Sa voix tremblait.
Oui, oui, bien sûr, votre sainteté, bien sûr. Je savais que vous le saviez, votre sainteté. Je voulais seulement dire...
Le régent lui coupa sèchement la parole.
Je suis certain, votre sainteté, que monsieur le grand chambellan voulait dire que même si quelques volants font le voyage chaque année, beaucoup meurent au cours de cette tentative. Nous ne voudrions pas mettre nos honorables invités en danger.
Le Dalaï Lama retrouva son sourire, mais celui-ci était plus sarcastique et plus rusé, presque ironique, que celui qu'il affichait quelques minutes auparavant. Il dit au cardinal Mustapha
« Vous n'avez pas peur de mourir, votre éminence. C'est tout le but de votre visite, n'est-ce pas? Nous montrer les merveilles de votre résurrection chrétienne. »
« Ce n'est pas le seul, votre sainteté, »
murmura le cardinal.
Nous sommes venus d'abord pour partager la joyeuse nouvelle du Christ avec ceux qui souhaitent l'apprendre, et ensuite pour discuter d'éventuelles relations commerciales avec votre belle planète.
Le cardinal rendit son sourire au petit garçon.
Et même si la croix et le sacrement de résurrection sont des dons venant directement de Dieu, votre sainteté, il n'empêche qu'il faut, malheureusement, pour profiter du sacrement, qu'une portion du corps ou du cruciforme soit récupérée. J'ai cru comprendre que personne n'est jamais revenu de votre mur de nuages.
Personne,
acquiesça le petit garçon dont le sourire s'élargit. Le cardinal Mustapha fit un geste des deux mains.
Alors, peut-être devrons-nous limiter notre visite au temple suspendu dans les airs et aux autres destinations accessibles.
Il y eut un silence et je regardais de nouveau aîné, me disant qu'on allait nous congédier, me demandant quel en serait le signal, pensant que le grand chambellan nous ferait sortir, sentant la chair de poule sur mes bras sous l'intensité du regard affamé de Némès fixé sur Aînée, quand soudain l'archevêque Jean-Daniel Breck brisa le silence.
« J'ai discuté avec sa grandeur, le régent Tocra, nous dit-il comme si nous pouvions régler un débat qui les opposait, de la similitude stupéfiante qui existe entre notre miracle de la résurrection et la croyance séculaire bouddhiste en la réincarnation.
« Ah !»
s'exclama sur son trône doré le petit garçon dont le visage s'éclaira comme si on soulevait un sujet particulièrement intéressant pour lui.
« Tous les bouddhistes ne croient pas à la réincarnation. Même avant la migration à Tien Shan et les grands changements philosophiques qui se sont poursuivis ici, toutes les sectes bouddhistes n'acceptaient pas le concept de renaissance. Nous savons de sources sûres que le Bouddha refusa de s'interroger avec ses disciples sur l'existence ou non d'une vie après la mort. De telles questions n'ont rien à voir avec la pratique du sentier et ne peuvent être résolues tant que nous sommes liés par les contraintes de l'existence humaine. Vous voyez, messieurs, on peut explorer, apprécier et utiliser la plus grande partie du bouddhisme comme un outil permettant d'atteindre l'éveil sans tomber dans le surnaturel. »
L'archevêque parut déconcerté, mais Mustapha s'empressa de répliquer
« Pourtant, est-ce que votre Bouddha ne dit pas, et je crois que ces mots sont dans l'une de vos saintes écritures, votre sainteté, mais corrigez-moi si je me trompe. Il y a du non-né, du non-créé, du non-fait, du non-composé, sinon comment échapper au monde du né, du créé, du fait et du composé ? »
Le sourire du petit garçon ne vacilla pas.
« En effet, il l'a dit, votre éminence. Très bien. Mais n'y a-t-il pas des éléments, pas encore totalement compris, de notre univers physique, soumis aux lois de notre univers physique, que l'on pourrait décrire comme non né, non créé, non fait et non composé ?»«
Aucun que je connaisse, votre sainteté, »
répondit Mustapha avec assez d'affabilité.
« Mais je ne suis pas un savant. » Seulement un pauvre prêtre.
En dépit de cette finesse diplomatique, l'enfant assis sur le trône parut décidé à ne pas abandonner le sujet.
Comme nous en avons déjà discuté auparavant, cardinal Mustapha, notre forme de bouddhisme a évolué depuis que nous avons atterri sur cette planète montagneuse. Il s'est totalement imprégné de l'esprit du zen. Et l'un des grands maîtres zen de l'ancienne Terre, le poète William Blake, a dit un jour « L'éternité est amoureuse des productions du temps. »
Le sourire figé du cardinal Mustapha révéla son incompréhension. Le Dalaï Lama ne souriait plus. L'expression du jeune garçon était aimable, mais sérieuse.
« Vous pensez peut-être que William Blake voulait dire que le temps sans fin est un temps dépourvu de valeur, cardinal Mustapha ? Que tout être libéré de la mortalité, même Dieu, peut envier les enfants du temps lent. »
Le cardinal hocha la tête, mais pas pour acquiescer.
« Votre sainteté, je ne vois pas comment Dieu pourrait envier notre pauvre humanité mortelle. Dieu est certainement incapable d'envie. »
Les sourcils presque invisibles du garçon se haussèrent au maximum.
« Votre Dieu chrétien n'est-il pas, par définition, omnipotent ? Certainement qu'il, qu'elle, doit être capable d'envie. »
« Ah, c'est un paradoxe fait pour les enfants, votre sainteté. J'avoue que je ne suis pas compétent en apologétique logique ni en métaphysique, mais en tant que prince de l'Église du Christ, je sais par mon catéchisme et dans mon âme que Dieu n'est pas capable d'envie, surtout pas d'envier ses créatures imparfaites.
Imparfaites,
répéta le petit garçon. Le cardinal Mustapha sourit avec condescendance. Son ton était celui d'un prêtre érudit s'adressant à un enfant.
L'humanité est imparfaite à cause de son penchant au péché, dit-il doucement. Notre Seigneur ne pourrait pas envier un être capable de pécher.
Le Dalaï Lama hocha lentement la tête.
Un de nos maîtres zen, un homme appelé Ikkyu, a écrit quelque chose d'analogue dans un poème. Tous les péchés commis dans les trois mondes s'effaceront et disparaîtront en même temps que moi.
Le cardinal Mustapha attendit un moment, mais quand il comprit que le poème ne comptait que ces quatre vers, il dit
« À quels trois mondes faisait-il allusion, votre sainteté ?»«
C'était avant le vol spatial, »
répondit le garçon en remuant un peu sur son trône capitonné.
« Les trois mondes étaient le passé, le présent et le futur. »
« Très joli !»
commenta le cardinal du Saint-Office. Derrière lui, son assistant, le père Farrell, regardait fixement le jeune garçon avec une sorte de froid dégoût.
« Mais nous, les chrétiens, nous ne croyons pas que le péché ou les effets du péché, ou la responsabilité du péché, d'ailleurs, prennent fin avec la vie de quelqu'un, votre sainteté. »
« Précisément. »
Le garçon sourit.
C'est pour cette raison que je me demande pourquoi vous prolongez si artificiellement votre vie grâce à votre cruciforme. Nous pensons que l'ardoise s'efface lors de la mort. Vous croyez que la mort ouvre sur un jugement. Pourquoi différer ce jugement?
Nous voyons dans le cruciforme un sacrement que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Le jugement fut d'abord différé par le sacrifice de notre Sauveur sur la croix, Dieu lui-même acceptant d'être puni pour nos péchés, nous allouant l'option d'une vie éternelle au paradis si nous le choisissons. Le cruciforme est un autre don de notre Sauveur qui nous accorde le temps de mettre nos maisons en ordre avant ce jugement final.
Ah oui,
soupira le garçon.
« Mais peut-être Ikkyu veut-il dire qu'il n'y a pas de pécheur, qu'il n'y a pas de péché, que notre vie ne nous appartient pas ?»«
Précisément, votre sainteté !»
l'interrompit le cardinal Mustapha, comme pour complimenter un penseur lent. Je vis le régent, le grand chambellan et d'autres qui entouraient le trône grimacer à cette interruption.
« Nos vies ne nous appartiennent pas. Elles sont à notre Seigneur et Sauveur, et faites pour le servir, pour servir notre Sainte Mère, l'Église.
Ne nous appartient pas, mais appartient à l'univers,
poursuivit le garçon.
Et nos actes, bons et mauvais, sont aussi la propriété de l'univers.
Le cardinal Mustapha se renfrogna.
Une jolie phrase, votre sainteté, mais peut-être trop abstraite. Sans Dieu, l'univers ne peut être qu'une machine, dépourvue de pensées, d'amour, de sentiments.
Pourquoi ?
Je vous demande pardon, votre sainteté.
Pourquoi l'univers sans Dieu, tel que vous le définissez, doit-il être dépourvu de pensées, d'amour, de sentiments ?
Dit doucement l'enfant en fermant les yeux.
La rosée du matin s'enfuit. Et n'est plus. Qui peut rester dans ce monde qui est le nôtre ?
Le cardinal Mustapha joignit les mains et posa ses index sur ses lèvres comme s'il priait ou subissait une légère frustration.
Très beau, votre sainteté. C'est encore dit Ikkyu ?
Le Dalaï Lama sourit d'une oreille à l'autre.
Non. De moi. J'écris un peu de poésie zen quand je ne peux pas dormir.
Les prêtres s'esclaffèrent. Némès regardait fixement Aîné. Le cardinal Mustapha se tourna vers mon ami.
Madame Ananda, avez-vous une opinion sur ces sujets d'une grande portée ?
Durant une seconde, je ne compris pas à qui il s'adressait, puis je me souvins que le Dalaï Lama avait présenté Aîné sous le nom d'Ananda, le principal disciple du Bouddha.
Je connais une autre petite strophe d'Ikkyu qui exprimera mon opinion,
dit-elle.
plus frêle et illusoire que des nombres écrits sur l'eau, notre quête inspirée par le Bouddha d'une félicité dans l'autre monde.
L'archevêque Breck s'éclaircit la gorge et se joignit à la conversation.
« Cela me semble suffisamment clair, jeune dame. Vous ne pensez pas que Dieu exaucera nos prières ?»
Aîné secoua la tête.
« Je pense que le poète veut dire deux choses, votre éminence. Premièrement, que le Bouddha ne nous aidera pas. Ce n'est pas là sa tâche, pour ainsi dire. Deuxièmement, cette conception d'un autre monde est stupide, parce que nous sommes par nature éternels, non-nés, non-mourants et omnipotents. »
Le visage et le cou de l'archevêque s'empourprèrent au-dessus de son col.
« Ces adjectifs ne peuvent être appliqués qu'à Dieu, Ash Ananda !»
Il sentit le regard furieux du cardinal Mustapha sur lui et se souvint qu'il était là en qualité de diplomate.
« C'est du moins ce que nous croyons !»
ajouta-t'il maladroitement.
Pour une jeune personne et une architecte, vous semblez bien connaître votre zen et sa poésie, Ash Ananda.
Mustapha eut un petit rire pour tenter visiblement d'alléger son ton.
Y a-t-il d'autres poèmes d'Ikkyu qui vous paraissent appropriés à notre sujet?
Aîné hocha la tête.
Nous arrivons seuls en ce monde, nous en partons seuls. Cela aussi est illusion. Je vous enseignerai la manière de ne pas arriver, de ne pas partir.
Ce serait un beau tour de passe-passe,
dit le cardinal Mustapha avec une fausse jovialité. Le Dalaï Lama se pencha vers lui.
Ikkyu nous enseigne qu'il est possible de passer au moins une partie de nos vies dans un monde sans espace ni temps, où il n'y a ni naissance ni mort, ni arrivée ni départ,
dit-il doucement.
Un endroit où il n'y a aucune séparation dans le temps, aucune distance dans l'espace, pas de barrière qui nous coupe de ceux que nous aimons, pas de mur de verre entre l'expérience vécue et nos cœurs.
Mustapha le regarda fixement, comme interloqué.
Mon ami, Ash Ananda, m'a aussi enseigné cela,
dit le garçon. Pendant une seconde, quelque chose qui ressemblait à un sourire sarcastique tordit le visage du cardinal. Il se tourna vers Aîné.
Je serais ravi que la jeune dame m'enseigne. Nous enseigne tous. Cet habile tour de prestidigitation,
dit-il sèchement.
J'espère le faire,
répliqua Aîné. Radamante Némès s'avança d'un demi-pas vers mon ami. Je glissai la main sous ma cape, effleurant le bouton de mise à feu de la torche laser. Le régent frappa un gong avec un bâton enveloppé de tissu. Le grand chambellan se précipita pour nous faire sortir. Aîné salua le Dalaï Lama et je fis maladroitement de même. L'audience était terminée. Je danse avec Aîné dans la grande salle de réception pleine d'écho sur la musique d'un orchestre de 72 instruments. Les seigneurs et les dames, les prêtres et les plénipotentiaires de Tien Shan, les montagnes du ciel, restent en spectateurs sur les bords de la piste où tournoient autour de nous. Je me souviens d'avoir dansé avec Aîné et dîné avant minuit à de longues tables constamment réapprovisionnées, puis d'avoir dansé de nouveau. Je me souviens que je l'ai tenu serré dans mes bras pendant que nous parcourions la piste en tournant. Je ne me souviens pas avoir jamais dansé auparavant, du moins en état de sobriété. Mais je le fais cette nuit-là en tenant Aîné contre moi, tandis que baisse la lumière des braseros qui crépite et que l'oracle projette les ombres de la lucarne sur le parquet. Il est 2 ou 3 heures du matin et les invités plus âgés se sont retirés, les moines, les maires et les hommes d'État, sauf la laie du tonnerre qui a ri et chanté et battu des mains avec l'orchestre pour chaque quadrille, tapé de ses pieds chaussés de mules sur le parquet ciré, et il n'y a plus que 400 ou 500 personnes déterminées à rester sur le grand espace ombreux, tandis que l'orchestre joue des morceaux de plus en plus lents, comme si leur ressort musical se détendait. J'avoue que sans Aîné, je serais allé me coucher plusieurs heures plus tôt. Elle veut danser. Danser, nous le faisons, mais lentement, sa petite main dans la mienne, mon autre à plat sur son dos. Je sens son épine dorsale et des muscles puissants sous ma paume à travers la fine soie de la robe. Ses cheveux frôlent ma joue. Ses seins sont doux contre moi. Sa tête s'appuie contre mon cou et mon menton. Elle semble un peu triste, mais toujours pleine d'énergie, toujours désireuse de s'amuser. Les audiences privées ont pris fin il y a plusieurs heures, et la nouvelle a couru que le Dalaï Lama était allé se coucher avant minuit, mais nous, les derniers, nous continuons à faire la fête. L'Homo Dondrub, notre ami volant, rit et sert du champagne et de la bière de riz à tout le monde. L'Absang Samten, le frère du Dalaï Lama, saute à un moment par-dessus les braseros rougeoyants. Le grave Tromo Troshi de Domu, soudain métamorphosé en magicien dans un coin, exécute des tours avec le feu et des cerceaux et pratique la lévitation. Puis la Dorje Famo chante a cappella un clair solo lent d'une voix si douce qu'elle hante mes rêves jusqu'à ce jour. Et pour finir, des douzaines d'autres se joignent au chant de l'oracle lorsque l'orchestre se prépare à conclure la soirée avant que les lueurs précédant l'aube pâlissent le ciel nocturne. Soudain, la musique cesse au milieu d'une mesure. Les danseurs s'arrêtent. Aîné et moi, nous vacillons avant d'en faire autant et de regarder autour de nous. Depuis des heures, on n'a vu aucun signe des invités de la Pax, mais brusquement l'un d'eux, Radamante Nemes, émerge des ombres de l'alcôve du Dalaï Lama fermée par des rideaux. Elle a changé d'uniforme, elle est maintenant tout de rouge vêtue. Il y en a deux autres, et à un moment je pense qu'il s'agit de prêtres, mais je m'aperçois alors que les silhouettes en noir sont des copies de la chose appelée Nemes. Une autre femme et un homme, tous deux en costume de combat, tous deux avec cette même frange noire et molle sur un front pâle, tous deux avec des yeux d'ambre mort. Le trio se déplace parmi les danseurs figés sur place, se dirige vers Aîné et moi. Instinctivement, je m'interpose entre mon ami et ces choses. Mais la mâle Nemes et son autre sœur nous contournent, nous encadrent. Je tire Aîné derrière moi, elle se poste de nouveau à mon côté. Les danseurs immobilisés ne font aucun bruit. L'orchestre reste silencieux. Même le clair de lune semble solidifié en flèche dans l'air poussiéreux. Je sors la torche laser et la tiens contre mon flanc. La première Nemes montre ses petites dents. Le cardinal Mustapha sort de l'ombre et se poste derrière elle. Les quatre créatures de la Pax fixent leur regard sur Aîné. Un moment, je pense que l'univers s'est arrêté, que les danseurs sont littéralement gelés dans le temps et l'espace, que la musique est suspendue au-dessus de nous comme des stalactites de glace, prêtes à se briser et tomber. Mais alors j'entends le murmure qui court dans la foule, chuchotement effrayé, sifflement d'inquiétude. Il n'y a pas de menace visible. Seulement quatre invités de la Pax qui ont traversé la salle de bal et gardent Aîné au centre de leur cercle qui se referme, mais l'impression de prédateurs fonçant sur leur proie est trop forte pour qu'on l'ignore, comme l'odeur de la peur qui monte parmi les parfums, les senteurs des cosmétiques et l'eau de Cologne.
Pourquoi attendre ?
Dit Radamante Nemes en regardant Aîné, mais en s'adressant à quelqu'un d'autre. Ses frères et ses sœurs, peut-être, ou le cardinal.
« Je pense, » dit Mustapha, mais il s'interrompt. Tout le monde se fige.
Les grands corps près de l'arche d'entrée résonnent comme le grondement grave d'écorce continentale en train de se déplacer. Personne n'est là dans les alcôves pour en jouer. Les trompettes de cuivre et d'os encadrent l'unique note roulant sans fin des corps. Le grand gong vibre au niveau de la conduction osseuse. Un bruissement et un tollé étouffé s'élèvent de l'autre côté de la piste, non loin des escalators, du hall et de l'arche d'entrée fermée par des rideaux. La foule éclaircie se sépare plus largement, s'écarte comme le sol labouré du soc en acier de la charrue. Quelque chose bouge derrière les rideaux fermés du hall d'entrée. Et franchit les rideaux, non point tant en les séparant qu'en les tranchant. Maintenant, quelque chose brille à la lumière de l'oracle et traverse en glissant sur le parquet, glisse comme si cela flottait à quelques centimètres au-dessus du sol, se mêle à la lumière mourante de la lune. des lambeaux de rideaux rouges accrochés à une forme impossiblement grande, 3 mètres au moins. Beaucoup trop de bras émergent des plis de cette robe cramoisie. On dirait que les mains tiennent des lames d'acier. Les danseurs s'écartent plus vite et on les entend distinctement hoqueter. Les éclairs supplantent en silence le clair de lune et les rémanences rétiniennes des lumières stroboscopiques, réfléchies par le plancher ciré, éclipsent l'oracle. Quand, après de longues secondes, le tonnerre éclate, impossible de le distinguer du grondement bas des corps qui fait vibrer nos os et se répercute toujours dans le hall d'entrée. Le Gritch s'arrête en douceur à 5 pas d'Aîné et moi, à 5 pas de la Némesse, à 10 pas de chacun de ses frères et sœurs figés dans leur manœuvre d'encerclement, à 8 pas du cardinal. Il me vient à l'idée que le Gritch drapé dans ses lambeaux pendant de rideaux rouges ressemble énormément à une caricature en chrome armée de lames du cardinal Mustapha dans sa robe cramoisie. Les clones de Némès en uniforme noir projettent des ombres de stylets sur les murs. Quelque part dans l'un des coins obscurs de la salle de réception, une grande horloge sonne l'heure. 1, 2, 3, 4. C'est bien sûr le nombre de machines à tuer non humaines debout, devant et derrière nous. Il y a plus de 4 ans que j'ai vu le Gritch, mais sa présence n'est pas moins terrible et ne me paraît pas plus opportune en dépit de son intercession. Les yeux rouges luisent comme des lasers sous une mince pellicule d'eau. Les mâchoires d'acier chromé se sont ouvertes pour révéler de nombreuses rangées de dents rasoirs. Les lames, les barbelures et les bords coupants du monstre émerge de sa robe de rideau rouge en plusieurs douzaines d'endroits. Il ne cligne pas des yeux. Il n'a pas l'air de respirer. Maintenant que son glissement a pris fin, il est aussi immobile qu'une sculpture de cauchemar. Radamante lui sourit. Tenant toujours ma ridicule torche laser, je me souviens de la confrontation sur le bosquet de Dieu. La chose appelée Némès était devenue argentée et floue, puis avait disparu, réapparaissant sans avertissement près d'Aîné, alors âgé de 12 ans. La machine voulait trancher la tête de mon ami pour l'emporter dans un sac en grosse toile, et elle l'aurait fait si le Gritch n'était pas intervenu. Ces choses se déplaçaient hors du temps. Je connais l'atroce douleur d'un père qui voit son enfant traverser la rue devant une automobile lancée à pleine vitesse et qui est incapable de bouger à temps pour la sauver. En surimpression sur cette terreur, il y a la douleur d'un amant incapable de protéger sa bien-aimée. Je mourrais à la seconde pour protéger Aîné de n'importe laquelle de ces choses, y compris le Gritch. Il se peut en effet que je meure à l'instant, en moins d'une seconde, mais ma mort ne la protégera pas. La frustration me fait grincer des molaires. Bougeant seulement les yeux, de peur de précipiter le massacre si je remuais une main ou la tête ou un muscle, je vois que le Gritch ne regarde pas Aîné ou la première Némès, mais le cardinal John Domenico Mustapha. Le visage de crapaud du prêtre doit sentir le poids de ce regard rouge sang, car son teint est devenu d'un blanc pur au-dessus du rouge de sa robe. Aînée passe à l'action. Se rapprochant de moi, elle glisse sa main droite dans ma gauche inoccupée et serre mes doigts très fort. Ce n'est pas le geste d'un enfant qui cherche un réconfort. C'est moi qu'elle veut rassurer.
« Vous savez comment cela va finir ?»
dit-elle doucement au cardinal, sans tenir compte des choses Némès qui se tendent comme des chats prêts à bondir. Le grand inquisiteur passe la langue sur ses lèvres épaisses.
« Non, je l'ignore. Il y a 3, vous savez comment cela va finir ?»
l'interrompt Aîné, d'une voix toujours aussi douce.
Vous êtes allé sur Mars.
Mars?
Qu'est-ce que Mars vient foutre ici?
Voilà ce que je pense. Un éclair lui par intermittence, projetant des ombres folles. Les visages des centaines de fêtards figés de terreur ressemblent aux ovales blancs peints sur le velours noir autour de nous. Je me rends compte, en un éclair d'intuition aussi soudain et éclairant que la foudre, que la biosphère métaphysique de ce monde, devenue zen ou pas, grouille d'esprits malveillants et de démons issus des mythes tibétains, les Niens, esprits cancéreux de la terre, les Sadag, seigneurs du sol, hantent les bâtisseurs qui troublent leur royaume, les Tsen, esprits rouges qui vivent dans les roches, les Gyelpo, fantômes des rois morts qui ont manqué à leurs vœux, morts, mortels, revêtus tous d'une armure pâle, les Dudes si malveillants qu'ils ne se nourrissent que de chair humaine et portent une peau de scarabée noire, les Mamos, déités femelles aussi féroces qu'une turbulence invisible, les Matrikas, sorcières des charniers et des plateformes de crémation dont on sent en premier l'haleine de charognard, les Graas, déités planétaires qui provoquent l'épilepsie et d'autres violentes maladies convulsionnaires, les Nojin, gardiens des richesses du sol, la mort des mineurs de diamants, et une douzaine d'autres créatures nocturnes, pleines de dents et de griffes, des choses qui tuent. Lomo et les autres m'en ont parlé bien souvent. Je contemple les visages blêmes en état de choc, qui regardent fixement le Gritch et les Némès et je pense « Ces gens n'auront aucun mal à raconter ce qui va se passer cette nuit.
Le démon ne peut pas les vaincre tous les trois, »
dit le cardinal Mustapha en énonçant tout haut le mot « démon » au moment même où je le pense. Je m'aperçois qu'il parle du Gritch. Aîné ignore ce commentaire.
« Il va prélever en premier votre cruciforme, »
dit-elle d'une voix douce.
« Je ne peux pas l'empêcher de faire cela. »
Le cardinal Mustapha rejette la tête en arrière, comme s'il venait d'être giflé. Son visage pâle blêmit encore. À un signal invisible de Radamanth Nemes, les clones se tendent encore plus, comme s'ils accumulaient de l'énergie pour une terrible transformation. Nemes a tourné son regard noir vers Aîné, et la créature sourit largement, découvrant des dents d'une blancheur éclatante.
« Stop !»
crie le cardinal Mustapha, et son hurlement tire des échos de la lucarne et du sol. Les grands corps scènent de gronder. Les fêtards s'accrochent l'un à l'autre en un crissement d'ongles sur la soie. Némès lance au cardinal un regard de dégoût malveillant, à la limite du défi.
« Stop !»
crie de nouveau le saint homme de la Pax, et je m'aperçois qu'il parle à ces créatures en tout premier lieu.
« J'invoque le commandement d'Albédo et du Centre. Je vous l'ordonne par l'autorité des trois éléments !»
Ce dernier cri désespéré à la cadence d'un exorcisme hurlé, de quelque rituel profond, mais même moi, je peux dire qu'il n'est ni catholique ni chrétien. Ce n'est pas le Gritch qu'il invoque en vertu de la poigne de fer d'un pouvoir talismanique. Ce sont ses propres démons. Némès et ses semblables reculent sur le parquet comme s'ils étaient tirés par d'invisibles ficelles. Le clone mâle et le clone femelle nous contournent pour rejoindre Némès devant Mustapha. Le cardinal sourit, mais ses bajoues tremblent.
« Je ne libérerai pas mes animaux familiers tant que nous n'aurons pas reparlé. Je vous en donne ma parole de prince de l'Église, enfant impie. » « Ai-je votre parole que jusque-là, ce... »
Il montre du doigt le Gritch hérissé de lames, drapé dans ses haillons de velours.
« Ce démon ne me traquera pas ?»
Aîné semble aussi calme que si elle en avait terminé avec l'incident.
« Je ne le contrôle pas.
Votre seule sécurité, ce serait de quitter ce monde en paix. »
Le cardinal observe le Gritch. Il semble prêt à s'enfuir si la grande apparition fait jouer ne serait-ce qu'une seule lame d'oie. Némès et les siens se tiennent entre lui et le Gritch.
« Quelle assurance ai-je, dit-il, que la chose ne me suivra pas dans l'espace, ou jusque sur Passem ?»«
Aucune, répondit Aîné.
Le grand inquisiteur pointe un long doigt sur mon ami.
« Nous avons des affaires à régler ici. » « Qui n'ont rien à voir avec vous, » dit-il sèchement. « Mais vous ne quitterez pas cette planète. Je le jure par les boyaux du Christ. »
Aîné lui rend son regard et ne répond pas. Mustapha se retourne et part dans le bruissement de sa robe rouge et le frottement de ses mules sur le parquet ciré. Les trois choses le suivent à reculons. Les clones mâles et femelles ne quittent pas le Gritch des yeux. Némès transperce Énée du regard. Il traverse l'ogive de rideaux du portail privé du Dalaï Lama et disparaissent. Le Gritch demeure où il est, sans vie, ses quatre bras figés devant lui, ses lames d'oie captent les dernières gouttes de lumière de l'oracle, avant que la lune passe derrière la montagne et se perde à nos yeux.
« Par le cul du Bouddha !»
s'écrie l'homo d'Ondrub en s'avançant à grands pas vers le Gritch pour tester du doigt une épine métallique qui se dresse sur sa poitrine. Je vois du sang perler dans la lumière qui faiblit.
« Fantastique !»
dit-il en vidant son gobelet de bière de riz. La Dorje Famo s'approche d'Énée. Elle s'empare de la main gauche de mon ami, fait une génuflexion et appuie la paume de la jeune femme sur son front ridé. Énée ôte sa main de la mienne, prend gentiment la laie du tonnerre par les bras et l'aide à se relever.
« Non, » murmure-t-elle. « Bien heureuse !»
s'exclame doucement la Dorje Famo.
« Amata, immortelle, Arhat, parfaite, Sammasambuddha, celle qui est pleinement éveillée, qui nous commande et nous enseigne le Dhamma.
« Non !» réplique Énée d'un ton brusque, toujours gentille avec la vieille femme lorsqu'elle la remet sur ses pieds, mais gardant une contenance sévère.
« Je vous enseignerai ce que je sais et partagerai ce que j'ai quand le temps viendra. Je ne peux pas faire plus. L'ère du mythe est passée. »
Mon ami se retourne, me prend la main, traverse la piste de danse, passe devant le Gritch immobile en direction de l'escalator stoppé. Les ex-fêtards s'écartent pour nous aussi vite qu'ils l'ont fait pour le Gritch. Nous nous arrêtons en haut des marches d'acier. Des lanternes rougeoient dans le hall d'entrée jusqu'à nos chambres si loin, en dessous de nous.
« Merci, »
dit Énée en me regardant avec des yeux bruns mouillés de larmes.
« Quoi ? Pourquoi ?
Je ne comprends pas.
Merci pour la danse. »
Elle se dresse sur la pointe des pieds pour m'embrasser doucement sur les lèvres. L'électricité de son contact me fait cligner des yeux. Je montre du geste la foule qui s'agit derrière nous, la piste de danse où le Gritch a disparu, les gardes de Potala qui se précipitent dans l'espace plein d'échos et l'alcôve entourée de rideaux par laquelle Mustapha et ses créatures ont disparu.
« On ne peut pas dormir ici, ma grande.
Némès et les deux autres vont... »«
Non, non. Fais-moi confiance. Ils ne traverseront pas le mur extérieur et notre plafond cette nuit. » En réalité, ils vont quitter leur gompa et rejoindre en navette leur vaisseau resté en orbite. Ils reviendront, mais pas cette nuit.
Je soupire. Elle me prend la main.
« As-tu sommeil ? »
dit-elle d'une voix douce.
« Bien sûr que j'ai sommeil.
Je n'ai pas de mots pour exprimer mon épuisement. La nuit dernière me semble remonter à des jours, à des semaines. » Et j'ai seulement dormi d'un sommeil léger pendant 2 ou 3 heures parce que...
Pas du tout, répliquai-je.
Énée sourit et nous ramène jusqu'à notre chambre.